Bonsoir. Vous entendez là? Bon. Je trouve ça touché bien. Bonsoir, bienvenue à cette soirée organisée par la librairie Bastard, qui se déroulera en trois temps. Donc on aura une conférence de Patrick Thor, qui durera une à deux heures, on verra. C'est assez large, hein. On n'interrompt pas trop les conférences si possible. Et puis ensuite, il y aura durant une demi-heure de discussion, de questions de la part du public. Et puis ensuite, l'auteur signera ses derniers ouvrages qui sont là-bas sur la table au fond. Donc Patrick Thor est connu, je pense, de beaucoup d'entre vous. C'est un des plus grands spécialistes de Darwin. Il a publié depuis de nombreuses années des ouvrages qui ont fait date sur le sujet, en remettant notamment en cause beaucoup d'idées reçues sur le grand naturaliste et ses théories. Notamment, il a dirigé le dictionnaire du darwinisme et de l'évolution. Il dirige également la publication des œuvres complètes de Darwin aux éditions Slatkin, dont le premier tome que nous avons là, qui est paru en septembre, enfin le premier volume chronologiquement, est le journal de bord, donc qui vient de sortir et qui est sur la table. Je remercie chaleureusement Patrick Thor d'avoir accepté de venir. Enfin, nous avons fait vraiment l'honneur et le plaisir de venir, d'accepter notre invitation. Je veux aussi remercier le musée de zoologie et le musée de géologie qui avaient organisé déjà en 2009 l'exposition que vous avez sans doute vue au Palais de Rumine et qui avait déjà invité M. Thor pour donner une conférence. Et donc merci à eux pour nous avoir permis de diffuser largement l'information auprès de leurs amis. Et également merci au Courrier, le journal de Courrier, qui est un des derniers indépendants de Suisse-Romande et qui nous a permis de passer gratuitement une annonce en échange d'une distribution de journaux. Donc il y a quelques exemplaires disponibles gratuitement que vous pourrez vous procurer également sur la table. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette conférence et à la publicité pour cette conférence. Et enfin, je voulais juste dire que notre librairie, qui est une des dernières librairies indépendantes de Lausanne, de plus coopérative autogérée, dispose de moyens modestes. Donc on s'est permis de mettre à la sortie, sur la même table que sur les livres, un chapeau pour ceux et celles qui voudraient soutenir financièrement l'organisation de cette soirée. On a également un papier expliquant pourquoi et comment devenir coopérateur de Basta, si ça vous intéresse. Et bien sûr, donc tout cela se trouve à côté des livres que vous pourrez vous procurer si vous le désirez et qui seront signés par l'auteur à la fin de cette soirée. Donc je passe la parole à Patrick Thor en le remerciant encore vraiment chaleureusement d'être venu ce soir.
Merci Yann, merci. Merci à tous et à toutes. Alors on se demande parfois quand on, pour la 500e fois, une conférence sur Darwin, s'il n'est pas un peu déraisonnable d'écrire des livres en même temps, parce que l'expérience semble nous avoir montré que si les livres sont faits pour être lus et pour qu'on en parle après, eh bien, au contraire de cela, il apparaît que on ne lit les livres que si l'on entend préalablement l'auteur en parler. Ce qui me fait évidemment souvent me reposer la question du sens qu'il y a à écrire des livres qui dureront plus longtemps que nous et qui donc seront forcément enfermés dans leur silence, étant donné que nous ne serons plus là pour donner aux autres l'envie de les lire. Eh bien, voilà, je suis réellement perplexe parce que moi j'écris vraiment des livres pour qu'ils me survivent. J'ai cette conviction que Freud Lacan, qui est un auteur que je ne cite pas souvent, disait à peu près, les gens savent qu'ils vont mourir et ils ont raison. Et moi je le sais beaucoup. Et je me dis que si j'écris des livres, c'est précisément pour qu'ils me survivent, pour mettre là-dedans des choses qu'ils diront infiniment mieux et plus durablement que moi lorsqu'il m'arrive d'en parler, comme dans les circonstances qui nous réunissent ce soir. Et donc, il faut s'habituer à l'idée que le livre porte des choses essentielles, mais qu'ils sont là pour être lus. Je trouverais plus de sens à parler d'un livre après sa lecture par un auditoire qu'avant, mais nous vivons dans un monde qui est ordonné autrement. Alors nous allons bien suivre ces indications pour l'instant, tant que nous en avons la force. Mais il est vrai que j'ai dans ma bibliothèque de l'Institut Charles Darwin International des livres qui ont 400 ans, et je voudrais bien avoir votre avis sur la probabilité qu'il y ait un jour des CD-ROM qui aient 400 ans. Voilà. Les CD-ROM, ça dure 15 ans, semble-t-il. Alors, il faut donc toujours aller acheter des livres. Ça, c'était pour mes amis libraires. Alors, je vais donc vous parler encore une fois de Darwin. Alors, il y a 30 000 manières de parler de Darwin. Je peux vous raconter sa vie, comme je le disais tout à l'heure avant d'entrer, à peu près jour après jour, à partir de 1831, mais nous n'aurions pas le temps de finir. Je peux essayer de la tracer dans ses grandes lignes et de voir comment cette vie a pu fabriquer la structure intellectuelle de celui qui allait produire une théorie, qui est la théorie de la descendance modifiée par le moyen de la sélection naturelle. Alors c'est peut-être cette voie-là qu'il faut choisir. Le thème choisi aujourd'hui, qui est le Darwin et le matérialisme, qui sera évidemment central dans mon propos, requiert d'ailleurs ce cheminement. Mais pas du tout indifférent de savoir d'où vient Darwin. Bon, tout le monde sait qu'il est né en Angleterre en 1809, qu'il est issu de deux familles aisées, pour ne pas dire riches, dans le cas de sa famille maternelle. Ce qui est important, c'est que dans ces deux lignées, paternelle et maternelle, il y a un trait commun, c'est qu'elles sont toutes des produits de ce qu'on a appelé le siècle des Lumières. La révolution industrielle anglaise et le souvenir de la révolution française et des penseurs français de ce fameux siècle qui ont influencé beaucoup des ascendants, enfin les deux ascendants principaux de Darwin, à savoir en ligne paternelle Erasmus Darwin et en ligne maternelle Josiah Wedgwood. Erasmus Darwin est un personnage absolument fascinant. Il est tout, comme le sont parfois certains grands penseurs polygraphes du XVIIIe siècle. Il est médecin d'abord, et c'est sur ce socle qu'il va construire sa connaissance et celle qu'il va vouloir transmettre à ses enfants. Il est naturaliste, c'est-à-dire zoologiste et surtout botaniste. Il est géologue, il est mécanicien au sens où il connaît les principes de la mécanique au point de les appliquer lui-même à l'invention de machines hydrauliques et tant d'autres choses encore que je n'ai pas le temps d'énumérer. Il est philosophe, ce qui est donné à tout le monde, et il est poète. Il est poète parce qu'il écrit bien souvent en vers, et que toute cette zoologie, toute cette botanique, tout ce savoir, parfois choisit ce mode d'exposition comme étant plus accessible et agréable pour son lecteur. Et enfin, il a une autre particularité, c'est que en 1794, dans le premier volume d'un de ses ouvrages les plus connus, la Zoonomia, ou Loi de la vie animale, eh bien en 1794, au chapitre 39 de cet ouvrage, il va exposer une théorie de la non-fixité des espèces vivantes, de leur origine à partir d'une substance filamentaire qui va peu à peu, suivant un modèle 18e bien connu, se complexifier sous l'action des forces environnantes et devenir ce que nous appelons, donner naissance plus exactement à ce que nous appelons des organismes. Cette vision n'est évidemment pas l'équivalent de ce que développera après lui son petit-fils Charles Darwin. Elle est cependant une rupture avec un dogme qui est celui de la fixité et de la création séparée des espèces par un créateur transcendant tout puissant et tout sage, et il va courir évidemment le risque que ce brillant personnage, connu pour être en outre un excellent médecin, il va courir le risque de subir la réprobation de l'Église, ce qui est monnaie courante à l'époque et depuis longtemps. Sérieusement, son ouvrage de Fanny à l'index, malgré l'opposition de William Paley, le physico-théologien qui régnait à l'époque sur ce que devaient penser les croyants, l'ouvrage ne sera pas mis à l'index après sa parution, mais simplement un bon moment après la mort d'Erasmus, en 1813, si j'ai bonne mémoire. Et donc l'index sera maintenu jusqu'à sa suppression parce qu'elle ne sera jamais, il ne sera jamais ôté de l'index. En quelque sorte, ce livre restera jusqu'au bout à l'index. Personnage tout à fait remarquable, comme vous l'imaginez. En même temps, penseur du progrès de la civilisation technique. Il va s'intéresser beaucoup au problème des moyens de communication, à la construction des canaux. Puis de l'autre côté de la famille, en ligne maternelle cette fois, il y a ce fameux Josiah Wedgwood, qui est un personnage tout aussi étonnant. C'était le dernier fils. Rasmus était aussi le dernier fils. Josiah était le dernier fils d'une famille de potiers, pauvres, au sein de laquelle il apprend évidemment le métier. Et puis il arrive que vers l'âge de 10 ou 11 ans, il développe une maladie du genou, méfiez-vous, le genou c'est fondamental. En fait, c'est une infection ostéo-articulaire, une ostéomyélite du genou, qui va le rendre inapte à travailler autour. Bien. Il aurait bien voulu s'associer avec ses frères aînés, mais les frères aînés ne l'entendent pas cette oreille, ils ne veulent pas s'embarrasser de ce petit garçon à moitié estropié, qui n'aura pas pu leur rendre de grands services, aurait été dans une grande mesure improductif. Donc, il va se séparer de sa famille, il va quitter ses frères, il va étudier par lui-même et auprès d'un certain nombre de potiers et de céramistes des environs, auprès desquels il va véritablement accumuler un savoir technique puis scientifique qui fera de lui un jour, une fois créé sa propre entreprise et sa propre esthétique révolutionnaire en matière de céramique décorative, eh bien qui fera de lui le potier de la reine. Alors que cela dessine déjà deux structures d'exception en quelque sorte. Les fondateurs de la lignée, aussi bien Darwin que Wedgwood, sont des êtres absolument remarquables, exceptionnels, non conformistes, qui ont su pratiquer, par rapport à ce que leur famille attendait d'eux ou espérait d'eux, ma foi, une sorte de d'écart qui pourrait se révéler intéressant par la suite. Erasmus Darwin, revenons au grand-père paternel, va avoir des enfants. De deux mariages différents, d'ailleurs, il va épouser en première noce une jeune et très jolie femme qui s'appelle Mary Howard et qui ne vivra que 30 ans. Donc il va avoir des fils et ensuite il épousera Mary Parker, sa gouvernante, et il aura d'autres enfants. Mais en fait, il tenait à l'aîné plus qu'à tout autre. Premier enfant, un garçon, dont il tenait infiniment à faire bien sûr un médecin éminent. Il ne pouvait pas imaginer cet enfant autrement que génial, et c'est à lui qu'il a tout transmis, à un âge évidemment très précoce, pour devenir l'égal de son père. C'est très noble, hein, c'est bien qu'un père ait envie que son fils soit un jour son égal, bien. Sauf que parfois ça tue. Alors le jeune homme développe dès l'adolescence des capacités absolument prodigieuses. Il va, avant 20 ans, être admiré par de véritables médecins qui voient en lui un des espoirs de la profession médicale. Il va, grâce à l'aide de son père, mais avec des capacités qui sont déjà suffocantes, publier avant l'âge de 20 ans sur au moins deux sujets. Et donc ce jeune homme que tout le monde admire, un jour, se livre à une dissection devant un auditoire, et s'agissait de l'autopsie du crâne d'un enfant, si vous voulez tous les détails, il se blesse avec son instrument de dissection et meurt quelques jours après d'une septicémie. Le père, très touché par cette disparition, cependant ne désarme pas, il a un autre fils, qui porte d'ailleurs son prénom, Erasmus, et dont il ne peut pas espérer qu'il tiendra la même place à la fois dans son estime propre de père et dans le milieu qu'il imagine, qu'il aurait pu imaginer pour lui. Il n'était pas l'équivalent de son frère aîné. Et ce garçon, eh bien, qui s'appelle Erasmus Darwin, il va se suicider probablement vers l'âge de 40 ans, on le retrouvera à minuit dans la rivière. C'est une histoire terrible. Et puis il y a le dernier fils. Le dernier fils, c'est Robert Warren Darwin. Alors lui, il n'aime pas du tout la médecine parce que lui a pris un peu ce frère aîné dont il garde un souvenir absolument admiratif et tendre. Et Robert va se trouver à son tour obligé par la volonté paternelle d'aller faire des études de médecine à Edinburgh, etc., comme on l'a fait dans la famille. Il va obéir à son père. Comme c'est un bon fils, il va réussir ses études. Et il va devenir médecin. Il va devenir médecin et il va devenir un excellent médecin. Extrêmement apprécié de ses patients pour une raison particulière qui est qu'il leur inspirait confiance. Il recommandait d'ailleurs la confiance comme le meilleur des remèdes. Et cet homme remplaçait très volontiers les interventions purement médicales ou chirurgicales dont il avait horreur par une intervention de type psychologique. D'ailleurs, il avait fait une thèse qu'il avait soutenue à Leiden, en Hollande, en 1785, une thèse sur les phosphènes. Qu'est-ce que c'est que les phosphènes? Eh bien, ce sont ces taches colorées qui persistent sur la rétine après une très vive impression de lumière. Eh bien, il a fait sa thèse sur les phosphènes. Ce qui est admirable, c'est que là encore, il a évité la matérialité du corps. Savez-vous comment on dit phosphène en anglais? On dit ghost, les fantômes. Spectra en latin. Hein? Bien. Despectrice, etc. C'est le titre de la thèse de ce médecin qui va éviter de toute façon de s'adresser au corps. D'ailleurs, il pèse 152 kilos et puis il est très grand, très corpulent. Son père avait une corpulence comparable, donc il retient de son père cette sorte de convexité physique, mais en même temps, elle devient une sorte d'embarras. Il faut vérifier les parquets quand il rentre chez un client, il faut un marchepied spécial pour monter dans sa voiture. Bref, un personnage imposant, sympathique profondément, et Darwin le dira lui-même en toutes lettres dans son autobiographie de 1876. Il insiste beaucoup sur la puissance de sympathie de son père. Retenez cette notion, on va la voir réapparaître, qui est en réalité une puissance d'empathie en l'occurrence. Bref, cet homme va épouser un jour une jeune femme qui est l'aînée de la famille Wedgwood et qui s'appelle Susanna Wedgwood. Et installée comme médecin dans une petite ville qui s'appelle Shrewsbury, il va donc y mener une vie de médecin connu, membre de l'Académie des sciences anglaises qui s'appelle la Royal Society, et ayant épousé cette jeune femme qui est la fille de Josiah Wedgwood, dont j'ai oublié de vous dire qu'il était son meilleur ami. Ces deux hommes, et là il y a toute une histoire que je pourrais à nouveau vous raconter, ces deux hommes se sont liés à travers des engagements communs, dont je parlais tout à l'heure, hein, le progrès, la confiance en la science, une foi plutôt relative ou déclinante, ou conventionnelle, une sorte de libre-pensée commune, hein, des positions anti-esclavagistes virulentes, un esprit d'entreprise indiscutable, l'intérêt qu'ils portaient aux canaux et aux moyens de communication, parce que là, oui, ils ont collaboré ensemble, Josiah Wedgwood ayant besoin de transporter ses faïences et ses matières premières autrement que sur des chemins où on en fracassait la moitié, eh bien. Et le docteur Darwin ayant besoin de bonnes routes pour visiter ses clients qui étaient très très éloignés. Et tout cela fait qu'ils ont fondé ensemble, avec les plus grands esprits du XVIIIe siècle anglais, une société discrète qu'on nommait la Lunar Society, parce que ils se réunissaient les jours de pleine lune, tout simplement parce qu'il y avait un éclairage qui leur permettait de rester sur le chemin et accessoirement de n'être pas victime du brigand. Alors cette Lunar Society, où on voit des gens comme Watt, Priestley, Jefferson, futur président américain, etc., Bolton, les grands entrepreneurs, les grands chimistes, les grands géologues également, les grands naturalistes et des hommes de lettres, qui ne tiennent pas d'ailleurs leurs femmes à l'écart forcément de tout cela, parce qu'ils ont aussi des idées ouvertes à ce propos. Eh bien, tout cela, ça va faire que ces deux hommes s'appréciaient tellement qu'ils ont décidé d'unir leur famille. Et c'est malheureusement un an après la mort de Josiah Wedgwood en 1795, qu'en 1796, donc, eh bien, Robert Darwin, le dernier fils d'Erasmus Darwin, va pouvoir épouser la première fille de Josiah Wedgwood. Eh bien, ce sont les parents de Darwin. Nous y sommes. Hein. Il n'est pas encore né. Robert Darwin va avoir des enfants avec Susanna, bien sûr. Il va avoir d'abord des filles, ensuite il va avoir deux garçons. Et le premier, il va l'appeler Erasmus. Et que va-t-il faire avec Erasmus ? Tu vas aller à Édimbourg, mon fils, et tu seras médecin. Alors, Erasmus, c'était l'époque où les enfants obéissaient à leurs parents. Il va à Édimbourg, il fait des études de médecine, figurez-vous qu'il les réussit. Il y a déjà quelque chose qui ne va plus parce que il a réussi des études médicales, il a le titre de bachelier en médecine, mais il ne pratiquera pas. Alors il deviendra un mondain, quelqu'un qui a du talent, qu'on apprécie pour sa conversation et sa culture, un brin cynique peut-être, qui s'occupera très bien de son jeune frère Charles, en revanche, qu'il aime beaucoup, qu'il protège, et qu'il apprend des rudiments de chimie, etc. Mais il ne sera pas médecin. Alors Robert, évidemment, il se dit qu'il y a quelque chose qui doit être rattrapé, et il s'adresse à son deuxième fils, son dernier fils, donc le dernier, Charles, le nôtre, enfin. Et lui dit, tu seras médecin, mon fils, et tu vas aller à Édimbourg faire tes études. Et Charles, qui est un petit garçon obéissant, mais obéissant, mais fantastique. Il s'est ennuyé à l'école pendant toutes ses études, à la petite école et à la grande école, à Shrewsbury, c'est épouvantable. C'est beaucoup ennuyé, rien ne l'intéressait vraiment, mais il avait la passion des choses naturelles, et il se plaisait infiniment à ramasser des objets de la nature, à collectionner toutes sortes de petits animaux, des insectes notamment, et courir dans la campagne à la recherche de ce genre de lutins, c'est véritablement sa passion. Et le père, évidemment, vivait cela sur le mode de la lucidité, mais aussi sur le mode de la réprimande. Et le petit Charles, qui aimait beaucoup et respectait beaucoup, mais craignait aussi un petit peu son père, eh bien, ma foi, arrivait à jouer avec un peu de charme entre faire ce qui lui plaisait il n'a jamais su faire que ça, et une obéissance formelle aux injonctions paternelles. Alors il va aller à 16 ans et demi à Édimbourg. Et puis il va rester là 3 ans, c'est-à-dire 3 semestres en réalité, où il ne fera strictement rien. Il assistera à quelques cours, et le gros problème, c'est que il ne supportera réellement pas les dissections, les autopsies. Donc il est pris de malaise chaque fois qu'on ouvre un corps, et ça n'est peut-être pas sans rapport avec la légende familiale, et avec le fait qu'il porte le prénom d'un mort, parce que c'est qu'intentionnellement, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le premier fils de Héraclius Darwin s'appelait Charles Darwin, premier du nom. Charles Darwin porte le nom d'un mort. Et il porte le nom d'un très jeune homme que la médecine a tué. Il échoue totalement dans ses études médicales, et il le fait avec une candeur telle et une évidence telle que lorsque le père sera au contact de ce drame universitaire, eh bien, au lieu d'éprouver de la colère, il éprouvera simplement, il ne fera simplement que constater le caractère irrémédiable de ce naufrage. Alors il va permettre à son fils d'avoir une seconde chance, et cette seconde chance, connaissant ses penchants, son goût pour se promener dans la campagne et de faire de l'histoire naturelle, eh bien il lui dit, voilà, tu seras pasteur, tu auras une petite cure dans la campagne, tu seras très bien, et tu auras le temps de te livrer à ta passion naturaliste, qui n'était pas d'ailleurs lui-même absolument étrangère, étant le fils de Rachel Darwin, il savait à quel point ça pouvait être important. Et il n'a pas cherché plus longtemps à s'opposer à la vocation de son fils. Le petit Darwin savait quant à lui que la fortune familiale lui suffirait pour vivre tranquille, et donc il n'avait pas trop de soucis de ce côté-là. C'est vrai qu'il n'a pas été très sage à Édimbourg, il va l'être un peu plus à Cambridge, où il va commencer à s'ennuyer, bien sûr, mais où il va rencontrer quelqu'un d'extrêmement important qui s'appelle John Stevenson Slow. Henslow, c'est un botaniste, mais qui a une formation de géologue aussi, géologue, minéralogiste. C'est un truc science. Et c'est quelqu'un qui accueille ses étudiants, ne leur fait jamais sentir qu'ils sont ignorants, parlant au plus instruit comme ils parlent, parlant plutôt au moins instruit comme ils parlent à ses collègues, avec autant de respect et de compréhension. Et il va s'attacher Darwin, Charles. Et Charles éprouvera pour lui un véritable sentiment de respect et d'affection. Il participera à ses soirées, rencontrera une partie de l'intelligence anglaise, et il va surtout apprendre l'histoire naturelle, là vraiment. Et il va comprendre ce qu'il n'avait pas compris l'année précédente à Édimbourg, où il avait suivi quelques cours de géologie qui l'avaient selon lui absolument dégoûté à vivre la discipline, avec Robert Jameson, et bien avec Henslow, il va comprendre toute l'importance fondamentale sur le plan intellectuel, sur le plan du raisonnement inductif, et bien l'importance de la discipline géologique. Et il va donc, grâce à Henslow, d'abord prendre la résolution de réussir ses études, et il n'aura aucun problème pour le faire. Aux environs de Noël 1831, il aura son diplôme de bachelor en art, et il va donc pouvoir exercer son ministère. Mais avant cela, grâce à Henslow, il va être mis en relation plus intime avec un professeur de géologie de Cambridge, donc de la même université, qui s'appelle Adam Sedgwick. Sedgwick, c'est un de ces représentants de la géologie bibliste, hein, traditionnelle, dogmatique, celle qui s'affirme fugiériste, hein, qui poursuit la tradition de gens comme Fugier et d'Alcide d'Orbigny, mais en forçant encore sur le dogme. C'est évidemment comme Henslow, un ministre du culte anglican, comme quasiment tous les enseignants de Cambridge. Et donc, ce qu'il enseigne, c'est la géologie de la Bible. Il va essayer, bien sûr, de la retrouver sur le terrain. Ce qui, évidemment, donne lieu parfois à des choses un peu étonnantes, mais il a la réputation d'être un bon géologue, et avec lui, Darwin va apprendre encore un peu plus de géologie au cours d'un voyage d'exploration qu'il va faire au nord, dans le nord du Pays de Galles. C'est une région où il est déjà allé souvent, elle est proche de son lieu de naissance, hein, le Shropshire et le Pays de Galles, ça se touche, bon, c'est assez proche. Il l'a fait déjà en 1813, tout petit, ses premiers voyages dans cette région. Bon, il est un familier du terrain et il va étudier les formations géologiques avec Adam Sedgwick. Au milieu de ce voyage, il quitte Sedgwick suivant le programme qu'il s'était tracé. Il va passer par Barmouth, voir quelques amis, et il va filer à Merhall, où il va retrouver sa famille maternelle pour l'ouverture de la chasse, parce que c'est à cette époque un passionné de la chasse aux perdrix. Nous verrons qu'il l'oubliera après la chasse, détestant absolument la mort infligée à quelque autre vivant que ce soit. Mais pour lors, hein, il a 19 ans, et il aime la chasse. Enfin, je dis pardon, il y a 19 ans quand il a commencé, nous sommes en 1831, il a donc 22 ans. Et il va, sur le chemin, passer par sa maison natale à Shrewsbury, et trouver là une lettre de Henslow qui lui propose, en gros, de partir sur le Beagle qui va appareiller pour un voyage de circumnavigation autour du monde et spécialement autour des côtes de l'Amérique du Sud pour achever leur relevé hydrographique. Le bonheur de Darwin ne dure qu'un moment, parce que s'il est formidablement tenté d'accepter, le principe de réalité lui rappelle que son père va certainement s'y opposer, et ne voulant pas risquer de blesser son père, qui a prévu pour lui autre chose, eh bien il va commencer par refuser, et ensuite il va reparler de ça avec son père. C'est une histoire très longue que je raconte jour après jour dans la préface, donc la longue préface du journal de bord. Je ne veux pas m'étendre maintenant. Mais il va partir sur le Beagle. Il faut que j'accélère un petit peu mon récit, moi aussi, si on veut aller jusqu'où. Il va partir. Et ce voyage autour du monde sera pour lui, ainsi qu'il le dit dans l'autobiographie qu'il rédigera en août 1876 pour ses enfants, l'événement de loin le plus important de ma vie. Et nous savons tous que c'est au cours de ce voyage qu'il fera les découvertes naturalistes et géologiques qui lui permettront de devenir le père de sa propre théorie. Alors pourquoi j'ai raconté tout ça dans un tel détail? Eh bien c'est d'abord pour faire comprendre qu'il est parfois utile de prendre le large quand on veut trouver sa voie. Conclusion sommaire, mais juste. On peut aller plus loin. Vous allez voir que c'est intéressant. On peut dire effectivement que Darwin s'est beaucoup battu avec l'exigence transgénérationnelle des ascendants, hein, pour imposer le fait qu'il n'était pas comme eux, il ne voulait pas leur obéir. Darwin dit non à la médecine, il est le premier depuis le XVIIIe siècle. Hein? Donc il pratique un écart par rapport à ce qui a été exigé de lui. Il diverge. Il négocie avec ses ascendants. C'est au prix donc de cette négociation avec cet ascendant qu'il deviendra plus tard, qu'il pourra devenir plus tard le théoricien par excellence de l'ascendance, le père de la fameuse théorie généalogique, le père de la phylogénie des organismes. Faire écart donc, faire divergence. C'est au prix donc aussi de cette divergence qu'il va pouvoir devenir le théoricien de la divergence évolutive. Mais alors, est-ce que simplement désobéir a été la recette? Est-ce que Darwin est devenu Darwin parce qu'il a su désobéir à un certain moment? Oui, bien sûr, mais réfléchissons. Est-ce qu'il n'a fait que ça? Est-ce qu'en étant différent de son ascendance et des recommandations que celle-ci lui a transmises de génération en génération, est-ce qu'il n'a fait que s'écarter? Est-ce qu'il n'a fait que désobéir? Eh bien, si l'on prend conscience du fait que les fondateurs des deux lignées étaient eux-mêmes des gens qui ont pratiqué un écart véritable qui a été fondateur pour créer au nom de leur variation propre, personnelle, quelque chose qui n'appartenait qu'à eux et qui ouvrait une nouvelle voie à l'évolution des disciplines dans les domaines dans lesquels ils ont travaillé, eh bien on se rend compte que Darwin a fait deux choses. Il a divergé par une variation fondatrice et en cela, il va pouvoir être le père de la théorie de la descendance modifiée, de la variation sélectionnée et transmise. Mais en tant qu'il est lui-même l'héritier d'une tradition de l'écart ou de la divergence qui se trouve inscrite chez les fondateurs même de la lignée, eh bien, il incarne l'autre principe nécessaire à faire le transformisme, ce n'est plus la variation, mais là, c'est la transmission héréditaire. Qu'est-ce que le transformisme? C'est une variation et la transmission de cette variation. Tout cela est inscrit dans la biographie de Darwin, dans ses gestes de vie, avant de devenir possible sur le plan d'un formidable remaniement personnel, intellectuel et théorique. Et bien c'est de ce remaniement-là que je vais parler maintenant. Le voyage, je peux effectivement le raconter jour après jour, mais ce livre est là pour vous le raconter jour après jour. C'est le journal de bord de Darwin qui est donc quotidien. Pardonnez-moi. Je vais évoquer essentiellement les deux moments principaux et les deux groupes d'observations principales dont j'ai mené ce voyage. J'en suis bien désolé parce qu'on pourrait parler pendant des centaines d'heures sur le travail d'investigation de Darwin à bord du Beagle consécutivement à ses explorations terrestres. On a dit encore très peu de choses là-dessus. Les anglo-saxons essaient d'y travailler, parfois d'une façon convenable. Le problème, c'est qu'ils ont souvent des petites lacunes géographiques. Ils ne savent pas déchiffrer l'écriture de Darwin. Alors on a inventé, je vous donne un petit exemple amusant comme ça, ça fait partie de toutes ces rectifications que je leur adresse de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Ils ont inventé toute la tradition, vous prenez Darwin Online, etc. À la Terre de Feu, il est question d'une certaine Lando Bay, hein, la baie de Lando, L-A-N-D-O, Lando Bay. Ben, je vous annonce que cette baie n'existe pas. Elle est une invention malheureuse suite à une erreur de lecture des gens qui ont transcrit le texte de Darwin, manuscrit de Darwin. En revanche, l'arrêt d'Obey, ça existe. Donc, grâce à moi, peut-être, les anglo-saxons vont pouvoir corriger une des innombrables erreurs qu'ils font lorsqu'ils écrivent souvent un nom étranger. Hein? Ça, c'est très très courant. Si vous voyez une bibliographie faite par des anglo-saxons, dès que ce n'est plus anglais ou américain, ils font des fautes. Toujours beaucoup, beaucoup de fautes. Parce qu'ils pensent que c'est aux autres de connaître leur langue, et absolument pas à eux d'apprendre la langue des voisins. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours lutté beaucoup, beaucoup contre ça. J'ai une passion pour la langue française et je n'ai pas encore rendu les armes. Alors donc voilà, l'art et l'obèque, c'est une petite anecdote comme ça, il y a beaucoup de choses hein, chez les spécialistes anglo-saxons de Darwin. Et c'est pour ça que parfois, mieux que le lire, il vaut mieux encore le traduire, parce que ça instaure un contact d'une profondeur absolue avec le texte. C'est quelque chose d'étonnant. Voilà, alors donc qu'est-ce qui se passe sur le Beagle, enfin plus exactement lors des explorations terrestres, parce que c'est là que joue l'essentiel. Eh bien, il va aller en Amérique du Sud, en particulier en Argentine, et en particulier dans un territoire immense qu'on appelle la Patagonie. Et puis il ira au Galapagos, hein, mais alors pardonnez-moi, il est allé dans des centaines d'autres endroits, tout ça c'est dans le livre, mais je ne peux pas moins vous le raconter. Mais on retient généralement l'Amérique du Sud et les Galapagos, pourquoi? Parce qu'il va faire là des observations extraordinairement importantes, d'abord en constatant que des espèces d'animaux qui se ressemblent beaucoup et qui cependant diffèrent d'une manière régulière par des caractères assignables, eh bien, se trouvent voisines sur un même territoire quand on change de latitude. Eh bien, par exemple, on a une autruche, hein, une autruche donc qui ressemble beaucoup à l'autruche africaine en plus petit, une grande autruche au nord de la Patagonie et une petite au sud, avec des différences secondaires à part la taille, dans certains détails densité des plumages à l'air, un peu la couleur, etc. Et un rapport différent entre la longueur du bec et la longueur totale de la tête, ça fait partie des critères régulièrement, régulièrement différents entre ces deux espèces. Il s'agit donc bien de deux espèces différentes qui s'engendrent géographiquement mais qui ne se croisent pas. Et puis là j'ai eu une question forcément dans la tête de ce jeune homme qui a fait des études de théologie et qui a lu et relu la théologie naturelle de William Paley. Enfin, comment un créateur tout puissant et infiniment sage, disposant d'une liberté de création infinie, a-t-il pu borner son talent à faire sur un même territoire deux espèces avec d'aussi petites différences? S'agissait-il d'un coup de fatigue, d'un manque d'imagination passager? Bref, le Dieu Tout-Puissant semblait en panne. Et bien sûr, tout ça, il n'écrit pas. Hein. Et comme je suis dans sa tête, je sais ce qu'il a pensé. Oui, mais c'est pas fini. Il va évidemment se livrer à des enquêtes approfondies, c'est le cas de le dire, sur sur la paléontologie. Hein. Il va creuser le sol et le faire creuser notamment par son domestique, celui qu'on lui a alloué comme domestique, Sims Covington. Et il va découvrir des restes des grands mammifères du Quaternaire argentin. Alors parmi ces qu'est-ce qu'il va découvrir essentiellement? Des restes de grands édentés, on disait édentés jusqu'à une époque très récente, maintenant ça s'appelle des xénarques. Je mets bien les édentés. Il va notamment exhumer un morceau de carapace du tatou géant, le grand tatou géant, hein, celui d'il y a très longtemps, qui pesait 2 tonnes, et qui s'appelle le glyptodon. Glyptodon, si vous préférez. Alors, ce glyptodon, évidemment, comme Darwin est intelligent, il voit bien cette carapace tessellée, ça lui rappelle énormément dans la conformation qu'il peut reconstituer le petit pixie, le petit tatou velu de Patagonie qu'il a vu bien vivant à la surface, et dont il a même goûté la chair. Bon. Il se dit, mais là encore, il ne faut pas manquer de se le dire, et comme je suis dans sa tête, je vous le raconte. Il se dit, mais enfin, comment un créateur doté d'un pouvoir de création infini va... comme ça se contenter de faire deux animaux qui se ressemblent si fort et qui en plus comment va-t-il vouloir à travers cette ressemblance étroite de conformation entre les deux, la taille mise à part bien entendu, suggérer que l'un peut être l'ancêtre de l'autre, il s'agit cette fois d'époques différentes, hein, bien. Alors que c'est le contraire qu'enseigne son Église. Alors, il va emporter tous ses doutes avec lui, et puis le voyage va continuer, il y aura les Andes, où il restera très longtemps, le Chili, tout ça. Et il va se retrouver enfin en 1835 aux îles Galapagos, et là ça va être un véritable bonheur, parce que les Galapagos, c'est très bien, comme vous savez, pour les naturalistes, ils peuvent faire des tas de statistiques, ils peuvent monter sur les tortues terrestres géantes, hein, les testudonidra, là, ou les phantopus, comme on voudra. Ils montent, alors il faut plus ça, hein, ils montent sur la tortue, ils évaluent sa résistance, il va quand même en disséquer une. Il ne les comparera pas d'une île à l'autre, ce qu'il regrettera plus tard. Il va nous donner un tas de détails sur les tortues, sur la capacité de leur vessie, permettant d'ailleurs d'être une réserve de fraises pour les voyageurs égarés dans les régions hautes de l'île. On a soif, on meurt de soif, c'est une tortue. Et donc on a de l'eau fraîche en quantité si on arrive à bien se débrouiller avec la bête. Alors donc, tout cela, bien, il observe, il est content, et ce dont il va s'occuper, c'est pas vraiment des tortues, c'est les lézards l'intéressent beaucoup. Les lézards l'intéressent. Il est fasciné, notamment, par l'ambliracus cristatus, ce qui en gréco-latin veut dire « nez usé à crête », c'est son nom indien, et c'est un iguane marin, qui a un cousin, qui est, lui, à l'intérieur des terres, et qui se nourrit à peu près comme les tortues de feuilles et de baies, qui se ressemble terriblement, qui lui ressemble terriblement. Alors, il est fasciné par les iguanes marins qu'il trouve très laid. Et là, vous allez voir encore que Dieu n'est pas loin. Il ne s'est pas demandé pourquoi le Créateur a-t-il fait des êtres aussi laids. Ça, c'est une question qu'il ne se pose pas. Parce que, bon, lui-même, il va observer que ces animaux extraordinaires, ces diablotins des ténèbres, comme d'autres avaient dit, reposent toujours au soleil sur des rochers émergés. Et même à l'eau, ils trouvent leur nourriture, hein, qui est constituée d'une sorte de salade de mer, une laitue de mer, qu'ils vont chercher à pas très loin du village, à une profondeur modeste, après quoi ils reviennent très vite, se remettre à l'abri. Eh bien, de cela, qu'est-ce qu'il va conclure? Pourquoi ces animaux, par exemple, qui sont assez peu farouches, mais prennent la chute quand même quand on les approche, pourquoi ces animaux, quand on les poursuit, s'arrêtent au bord de l'eau et ne sautent pas alors que ce sont des animaux aquatiques? Ils préfèrent se laisser capturer. Il va essayer de comprendre, et pour comprendre, il va réitérer l'expérience, c'est-à-dire qu'il va jeter des iguanes marins, il faut quand même une certaine force quand ils sont d'une certaine taille, aussi loin que possible dans un grand bassin d'eau laissé par la mer, et il va constater que chaque fois l'iguane, au lieu de s'enfuir et de nager, bien revient en s'éloignant, nage pour revenir sur le rivage, où il va subir évidemment le même traitement. Alors peut-être que c'est le rêve ascensionnel des iguanes, je ne sais pas ce que dirait un psychanalyste, mais en tout cas ce que se dit Darwin, et lui, je peux vous le dire, parce que je le dis dans sa tête, c'est mais enfin, d'abord, pourquoi un créateur tout puissant, avec une liberté de création infinie, a-t-il créé deux animaux qui sont presque identiques, l'iguane terrestre et l'iguane marin? Et puis pourquoi ce tropisme vers la rive, vers la terre, est-ce que ce n'est pas indicateur d'une ascendance commune, qui soit évidemment terrestre? Donc après, qu'est-ce que c'est que ce créateur qui nous crée un animal aquatique qui a horreur de l'eau? Alors en fait, si l'iguane marin revient au rivage, c'est aussi parce qu'il a terriblement peur des requins qui sont le prédateur, ses prédateurs, bien sûr. Tout cela ne lui paraît pas du tout conforme à ce que lui a appris l'étude de la théologie naturelle de William Paley à Cambridge. Dans la perspective de la théologie naturelle, et là je vais très vite parce que je résume beaucoup de choses, les harmonies parfaites de la création sont la preuve de la toute puissance et toute parfaite sagesse du Créateur. L'intelligence suprême a tout prévu, tout adapté, tout co-adapté, et par conséquent, bien sûr, l'homme qui est le destinataire à l'intérieur de la création de ce message d'harmonie est convié à se placer par rapport à lui dans une position de contemplation admirative. Hein? C'est pour le plaisir de l'homme, d'une certaine façon, que Dieu a ordonné toutes ces merveilles, et c'est pour ça qu'il l'a créé à son image. Attendez, je parle de l'homme, hein, pas de la femme. Pas tout confondre quand même. L'homme au moins a été créé à l'image de Dieu, si on relie bien la Genèse. Vous savez qu'il y aura des complications, que l'imperfection va s'introduire dans le monde à cause de l'homme, du péché originel, de la volonté de savoir, la libido ce qui indique, etc. Vous savez tout ça, mais ce dont il faut se souvenir, c'est que les animaux et les plantes n'ont pas péché. Donc, si les animaux et les plantes n'ont pas péché, elles sont restées dans l'état de perfection originelle. Ce qui veut dire que la théologie naturelle doit continuer, évidemment, à poursuivre sa mission qui est de convaincre de l'harmonie des adaptations. Or, justement, au cours du voyage, Darwin commence à mettre en doute ces fameuses harmonies, à trouver des contradictions qui sont naturalistes et logiques entre les postulats de la théologie naturelle qui empêchent effectivement d'aller au-delà de cette constatation admirative, hein, d'harmonie, et la réalité qu'il observe. Et ce qu'il commence à comprendre, et ce sera l'un des fondements du matérialisme, c'est que le matérialisme, dont il va parler en toutes lettres en 1837, un an après son retour, dans un carnet, c'est le carnet B, eh bien que le matérialisme, c'est ce que j'ai nommé une ontologie de l'imparfait. Alors là, je vous renvoie à mon livre Darwin et la religion, si on veut comprendre justement le rapport entre théologie naturelle et l'irruption de Darwin qui dit d'un non, la création n'est pas parfaite, et c'est précisément parce qu'elle n'est pas parfaite qu'elle évolue. Si tout était parfait, tout coadapté, il n'y aurait pas d'évolution, bien sûr. Or maintenant, nous allons en venir à ce qui a déterminé l'adhésion de Darwin à une théorie évolutive, à une théorie de la non-fixité des êtres vivants. Et bien, ça va se passer à l'occasion de l'expertise par Gould de petits animaux qui viennent aussi des Galapagos, des petits oiseaux, qu'on a toujours appelé des finches, des pinsons, qui sont en réalité une sorte de niche de moineaux de pinsons, un petit oiseau joli et peu corpulent, dont la souche est américaine continentale et qui ont émigré sur les îles. Mais ils ont émigré sur les différentes îles des Galapagos en se différenciant sur le plan de certains caractères anatomiques de telle sorte que ils ont formé non pas seulement des variétés différentes, mais des espèces différentes qui ne se croisent plus donc entre elles. Et ça va lui être révélé par John Gould, qui va analyser tous les spécimens des Eosphysinae, ça c'est le nom savant de cette famille donc, d'oiseaux, de petits pinsons rapportés par Darwin, et qu'il a montré que bon, ben, il y a une progression dans la forme du bec sur les classes hein, par ordre de en prenant comme critère l'épaisseur du bec, ben, on va avoir un pinson au bec broyeur qui concasse les petites graines à coque dure dont il se nourrit. Qu'on appelle évidemment le géospise à gros bec, géospise à magnirostris. Et puis après, il va y en avoir une série d'autres, on va voir le bec changer, diminuer, et puis à la fin, au bout de la série, nous allons trouver un petit animal très gentil qui s'appelle, petit oiseau très gentil, Sortidea olivacea, le géospise olive, qui lui, au doté d'un bec fin, parce que ce petit oiseau, au lieu de manger des graines, eh bien, il va chercher des larves et des insectes dans les troncs pourris des arbres. Et de ce fait, évidemment, il a un régime carnassier. Donc, il y a une barrière écologique complète entre ces deux espèces, par exemple. L'un frugivore, granivore, et l'autre carnivore. Donc, Gould révèle qu'il y a dans cet échantillonnage pratiqué par Covington et Darwin, eh bien, qu'il y a à peu près 13 espèces différentes. Et qu'elles viennent toutes, originellement sans doute, d'un phénomène migratoire dont le départ serait la côte, le continent américain, puisque les Galapagos se trouvent à environ 900 000 km de l'équateur, de l'état de l'équateur. Donc, ben là, c'est très simple, Darwin n'a plus le choix, il opte pour le transformisme. Il a la preuve que des espèces peuvent se créer, c'est-à-dire que des barrières d'interstérilité s'établissent pour des raisons écologiques, écologiques, trophiques, etc., entre donc des populations d'oiseaux venus issus d'une souche commune. C'est le schéma de la théorie de la spéciation, et notamment de la spéciation insulaire, comme on dirait aujourd'hui. Et Darwin ne peut plus refuser l'idée que les espèces se transforment. Nous sommes en 1837, mars, et en juillet, il ouvre son premier carnet sur la transmutation des espèces. Nous en sommes là. Darwin est transformiste, il peut prouver que le transformisme est vrai, mais il ne sait toujours pas comment les espèces se transforment. Alors, il lui arrive l'année suivante, en 1838, exactement entre le 27 septembre et le 3 octobre, de faire une lecture qui était programmée dans son, dans la catégorie livres à lire, hein, des notes qu'il prenait concernant ses lectures. Il avait donc l'intention de lire ce livre. Il s'agit de l'essai sur le principe de population de Malthus. On n'aime pas beaucoup Malthus. Hein. Mais ça va servir malheureusement à certains, comme Marx et Engels. Ça va leur servir à dire qu'il a tout pris chez Malthus et qu'en fin de compte, il ne fait que reployer Malthus sur la nature. Ce qui est vrai. Mais aussi sur la société. Ce qui est faux. Alors c'est tout ça que j'explique maintenant. Dans l'essai sur le principe de population, qui date de 1798 pour sa première édition, et que Darwin va lire, je crois, dans l'édition de 1826, il est expliqué que, bon, la population humaine n'échappera pas longtemps au malheur si elle continue à s'accroître dans une proportion géométrique. Parce que les ressources, elles ne s'accroissent pas en proportion géométrique. Nous suivons simplement une progression arithmétique. Nous vivons sur des territoires limités quant à la taille et quant aux ressources. Donc cette distorsion entre deux modes de croissance est l'argument le modèle, en quelque sorte, que propose Malthus pour justifier ses propositions d'intervention sociale, de limitation de la population humaine, de limitation surtout dans les classes populaires. Des intempérants, hein, ils ne savent pas, ils ne sont pas très instruits, ils se reproduisent comme des lapins, un peu plus après ils ne peuvent plus élever leurs enfants, alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais en même temps, il ne faut pas, surtout pas toucher à cela, parce que comme la pression de population entretient une concurrence entre les individus, bien sûr. Et c'est ce qui permet aux meilleurs d'entre eux de valoir, au sens moral du terme, de ne pas céder aux vices, à la débauche, au désespoir, mais d'être vaillant dans ce combat pour la vie qui sera récompensé par la vie éternelle, bien entendu. Et le Créateur tout puissant et tout sage. Alors, bien sûr, avec Malthus, on a le schéma de ce que va être, en gros, la philosophie sociale de tout le 19e siècle de la future Angleterre. Hein. Le malthusianisme par Spencer interposé deviendra une sorte de philosophie spontanée des classes dirigeantes anglaises. Bien. Avec d'un côté une concurrence effrénée qui va accompagner l'essor du libéralisme et de cette période d'après la révolution industrielle, qui va être une période de consolidation et d'expansion de toutes les capacités de l'Angleterre, je dis bien tout, y compris le colonial. Bien. Et cela d'un côté, et de l'autre côté, bien sûr, la volonté de Dieu, qui garantit justement que pour que l'homme soit bon, il faut qu'il continue à se battre, il faut qu'il continue à lutter pour améliorer sa condition. Et donc, lui, le Tout-Puissant, accorde une récompense, bien sûr, ceux qui ont fait ceux qui ont mené cette vie-là. Vous voyez, hein, c'est plein d'espoir le libéralisme. En tout cas, ça dure toujours, après on est tranquille. Hein. Alors donc, Darwin va être tout à fait frappé par le modèle de Malthus, et il va, que va-t-il faire? Ben, il va simplement l'appliquer là où Malthus ne l'applique pas. C'est-à-dire, aux populations animales et végétales, là ça fonctionne très bien. Mais jamais il ne l'appliquera aux populations humaines. Jamais, jamais. Non seulement il ne l'appliquera pas, mais en 1871, dans un livre donc postérieur à l'Origine des espèces, que j'ai traduit également, mais qui va être réédité plus tard chez Slatine, également la filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, eh bien, dans ce livre, il va prendre des positions anti-malthusiennes. Au nom de sa propre théorie. Alors bon, je ne suis pas encore tout à fait là, mais je tenais à dire que Darwin est anti-malthusien. Donc il est faux de lui reprocher de n'avoir fait que transporter, d'avoir été en quelque sorte le véhicule transitoire, je dis bien un véhicule transitoire, hein, naturaliste. Le relais, hein, naturaliste de Malthus, permettant de renaturaliser le malthusianisme dans la société ensuite. Ça, ce sera la critique très fine et très chausse de Marx et suivie par Engels. C'est dommage, c'est pas souvent qu'ils prennent ces deux-là, mais là, c'était une erreur qui a eu de très lourdes conséquences. On pourrait aller beaucoup plus loin dans la réfutation de Malthus, c'est pas notre propos, mais ça reste un point qui, aujourd'hui, est encore un sujet sensible dans certaines discussions. Donc, Darwin emprunte un modèle mathématique à Malthus, l'applique là où Malthus ne l'applique pas, et refuse de l'appliquer là où Malthus l'applique. C'est ça qu'il faut retenir, tout simplement. Mais l'illumination pour Darwin, eh bien, c'est ce que c'est de percevoir ce que rend possible le modèle malthusien. Alors, il y a dans ce livre et dans d'autres, parce que je suis obligé de reprendre ce schéma chaque fois que j'explique la théorie, et d'ailleurs vous avez trouvé dans tous les livres qui sont sur la table, y compris le guide de l'évolution, il y a dans ce livre un schéma qui occupe une page et qui est bien utile pour comprendre comment se constitue sur un plan à la fois chronologique, logique et ensuite didactique la théorie darwinienne proprement dite. Alors de quoi part-il Darwin? Je vais essayer d'être là, rapide. Eh bien, il parle de la constatation de deux faits. Hein. Nous sommes, imaginez un tableau avec des cases, on est dans la partie gauche. Hein. Il parle d'un premier fait que j'évoquais tout en commençant, c'est la variation. Tous les organismes vivants présentent des variations. Le moindre horticulteur, le moindre jardinier sait qu'il ne verra pas avec deux fois la même plante, que ça va pousser d'une autre manière, etc. Bien. Les éleveurs savent aussi que leurs animaux présentent des variations. La variation, comme phénomène constaté dans l'univers naturel, prouve quoi ? Eh bien, il prouve qu'il existe une capacité des organismes naturels que l'on nomme la variabilité. Hein ? La variation prouve la variabilité des organismes. Je dis quelque chose de très évident, mais ce n'est pas tautologie, vous verrez pourquoi. Parce qu'à côté, il y a la sélection artificielle, c'est le fait numéro 2. La sélection artificielle pratiquée par les éleveurs, par exemple. Okay, en quoi ça consiste? Ben, c'est très simple. Ce sont des éleveurs de moutons aux États-Unis, et il arrive qu'un jour, par hasard, comme on dit, un certain nombre de moutons présentent une malformation des pattes antérieures, qui sont des pattes torses, et cette difformité intéresse les éleveurs parce qu'elle empêche littéralement les moutons en question d'escalader de clôture. Donc, ils vont faire ce qu'ils ont fait depuis l'origine de leur pratique, ils vont écarter de la reproduction les individus normaux et garder les individus qui présentent la variation qui leur est avantageuse, à eux éleveurs. Et par reproduction exclusive, donc, ils vont fixer ce trait dans une race nouvelle. Et cette race nouvelle porte un nom, c'est les moutons Ancon. Bon. Des moutons qui ne s'échapperont plus de l'enclos, c'est intéressant pour un éleveur ça tout de même. Voilà. Mais qu'est-ce que ça prouve ça? C'est de la sélection artificielle, hein, on appelle ça comme ça en zootechnie. Eh bien, ça prouve la sélectionnabilité naturelle des organismes. Un organisme à l'état domestique reste un organisme naturel. Comme nous, hein, nous sommes toujours des organismes, même si nous prétendons à infiniment de supériorité par rapport évidemment à nos frères inférieurs ou à une bactérie, c'est clair que nous y sommes supérieurs. Je ne suis pas d'accord avec nous, M. Gould, parce qu'on n'a pas les mêmes critères. L'organisme de l'animal domestique reste un organisme naturel. Par conséquent, de cette sélection artificielle s'induit une sélectionnabilité naturelle des organismes. Alors, à la confluence de ces deux questions, il y a de la variabilité, il y a de la sélectionnabilité. Et si, est-ce qu'il y aurait par hasard une sélection de variation dans la nature, qui soit à la base, bien sûr. C'est, pour l'instant, c'est une question. Ben oui, mais il est clair que pour lui, ça commence à se passer dans son esprit, mais s'il n'y avait pas Malthus, il n'y arriverait pas. Il y a deux autres cases à droite dans mon schéma. La première case, c'est le taux de reproduction des organismes. Tous les organismes vivants, reproduction sexuée, pour ne parler que de ceux-là, eh bien se reproduisent à une cadence absolument extraordinaire et pourraient en très peu de temps peupler l'intégralité de la Terre ou l'intégralité du territoire qui les enfermerait. Il prend l'exemple des éléphants, qui sont des animaux à parturition, à gestation très lente. Et pourtant, malgré cette lenteur, un couple d'éléphants, dit-il, pourrait peupler très rapidement n'importe quel territoire, à condition qu'il n'y ait pas d'entrave à leur reproduction. Mais en même temps, nous avons un quatrième fait, hein, ça c'était les choses 3 et 4, qui joue en opposition à cette capacité de reproduction illimitée des organismes, eh bien, c'est l'existence des équilibres naturels plurispécifiques sur tous les territoires de la Terre. Hein. Il n'existe pas un endroit où il n'y ait qu'une seule espèce. On ne voit nulle part un département de la Terre couvert d'éléphants, et uniquement d'éléphants, ou bien de grenouilles, ou bien d'une seule herbe, etc. Donc, s'il y a partage des territoires, partage pluri-spécifique, c'est donc qu'il y a un frein sec, hein, qui est opposé à la prolifération exponentielle d'une seule espèce, de chaque espèce, juste pour composer des équilibres pluri-spécifiques. Alors, cette force d'opposition à la croissance exponentielle des populations d'organismes, c'est quoi? Ben, ça peut être que agonistique, ça peut être qu'un conflit, ça peut être qu'une lutte. Sur un territoire, les organismes ne peuvent que s'affronter. Et bien sûr, comme dans chaque affrontement, il y a des morts, il y a des disparitions. Et alors, mais qui va l'emporter, alors, dans une lutte comme celle-là? Qui sont les vainqueurs? Eh bien, il est clair que dans une lutte comme celle-là, les vainqueurs sont ceux qui ont les armes les plus adaptées à ce type d'affrontement. Ceux qui, dans la lutte pour l'existence qui s'instaure ou s'aggrave, vont présenter un avantage sur leurs concurrents. Quand deux individus s'affrontent dans un milieu donné, il est clair que celui qui va l'emporter l'emportera en raison d'un avantage qu'il possède et que l'autre ne possède pas. Mais qu'est-ce qui peut générer cet avantage? Eh bien, c'est là qu'on retourne à la première partie, la partie de gauche du schéma. La réponse, elle est dans la première case, c'est la variation. Seule la variation spontanée des organismes peut, à condition d'être retenue comme favorable par le milieu dans lequel elle survient, donner un avantage à un organisme sur un autre. Darwin vient de produire sa théorie, ce sera la théorie de la descendance modifiée par le jeu de la sélection naturelle des variations avantageuses. Les variations avantageuses s'accumulent dans la descendance d'une espèce. Cette espèce va évoluer dans le sens de l'accentuation du caractère avantageux. Ça va, comme le mécanisme reste le même, à chaque étape de la descendance, cette différence va s'accuser de manière à produire, à la fin, une espèce totalement différente dont les caractères, le mode de vie, les besoins seront différents de l'espèce qu'il a engendré. Voilà la théorie darwinienne. Et c'est tellement lumineux, à la fois sur le plan logique et sur le plan naturaliste, lorsqu'on a l'occasion, effectivement, de voir le chemin parcouru entre ce qui pouvait être expérimental à l'époque et ce qu'il est devenu après, avec les fameuses expériences de Cessier et d'Héritier. Eh bien, tout cela donne un peu le vertige. On a l'impression d'une pensée pesante, simple, lourdeau, qui avance lentement et qui s'est merveilleusement observée. Et on a l'impression d'un mauvais élève qui insiste et qui accumule des choses, beaucoup de faits dans l'origine des espèces. Et puis on a aussi l'impression qu'il n'y a qu'une seule théorie, il n'y a qu'une seule idée fixe sur le plan théorique. Je veux dire, tous les grands penseurs n'ont qu'une seule idée dans la tête. La leur, mais elle n'appartenait vraiment qu'à eux, même si par ailleurs le mécanisme de son émergence est redevable à beaucoup de prédécesseurs d'avoir, comme on dit, préparé le terrain. Mais les grands créateurs en matière de théorie, eh bien, ils sont comme ça. Ils ont une idée essentielle. Quand elle arrive à maturité et qu'elle est produite, elle transforme un petit peu les choses quand même. Alors, bien sûr, on comprend que cette théorie implique l'élimination des moins aptes. Hein. On vient de le voir, c'est une des conséquences du modèle malthusien. Alors, il y a dans l'Angleterre victorienne, puisque dans l'Angleterre victorienne commence précisément au moment où Darwin entreprend son premier carnet de notes en 1837. La reine Victoria, la toute jeune reine Victoria, qui n'a que 18 ans, monte sur le trône et va l'empoisonner juste pendant 65 ans, près de 65 ans. Mais ça va être une période formidable pour la bourgeoisie anglaise, pour les riches, ça va être très très bien, pour les pauvres, ce sera abominable. Je ne vais pas vous raconter ça dans le détail, mais c'est aussi une période d'émancipation par ailleurs, parce que les idées de Darwin font leur chemin. En 1880, d'après lui, tout le monde est opté quand même pour le transformisme, et on commence à considérer que c'est une évidence naturaliste, qui doit s'imposer fatalement, hein, contre l'autorité du dogme. Donc il va publier, je vous passe des océans de récits, il va publier sa théorie en 59, hein, l'origine des espèces. Il va être très prudent sur le terrain de l'homme, il ne veut pas en parler, mais il va annoncer tout de même sur les développements, hein, que l'homme est concerné, mais il ne va pas le dire expressément. Et tout simplement parce qu'il a déjà très peur du premier choc qu'il va produire, ça a été un sacré choc dans les sociétés anglaises et surtout dans le milieu théologico-universitaire, mais il saura très tôt que le second rempart de la théologie, ben c'est l'homme, la conscience humaine, la morale, le sentiment religieux, etc. Et tout cela, il va l'épargner au maximum. C'est pourquoi il ne se dira jamais athée. Jamais athée. Darwin n'a jamais dit ni écrit « Je suis athée ». Ne vous attendez pas à trouver ça sous sa plume. Bien entendu. Bien entendu. Seulement, est-ce qu'il faut croire sur parole tous les gens qui vous disent que Darwin était agnostique? Darwin a déclaré toute sa vie qu'il était agnostique. Si on lit l'autobiographie de 1876, qui est en principe réservée à ses enfants, même pas vraiment à sa femme qui était pieuse, et qui était bien ennuyée d'avoir un mari comme ça. Oui, ça pose des problèmes, ils ne vont pas se retrouver forcément ensemble au paradis, ils risquent d'être punis longtemps, parce que elle connaît par ailleurs l'excellence de son cœur, hein, ça oui, vraiment. En même temps, elle est unitarienne, ça je ne vous ai pas dit ce que c'était, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, donc elle pardonne quand même un peu, et elle combat l'agilité du dogme anglican. Et donc, bon, tout ça ne rend pas la vie simple à un bon père de famille qui veut qu'on le laisse tranquille et surtout ne pas porter préjudice à cette théorie en l'entachant d'une marque idéologique indélébile qui est celle de l'athéisme à l'époque. Alors il va se déclarer agnostique. Mais qu'est-ce que c'est agnostique? Vous savez qui a inventé ce mot? Agnostique, agnosticisme, eh bien c'est un jeune confrère de Darwin, qui s'appelle Thomas Henry Huxley. Jeune homme extraordinairement brillant, qui vient d'une famille pauvre, pas du tout comme Darwin, et qui est un ingénieur en matière d'anatomie comparée, c'est lui qui tiendra tête à Owen et qui fait le plus vieux anglais, et qui s'illustrera par une réponse cinglante à l'archevêque Wilberforce lors du fameux, la fameuse réunion d'Oxford entre partisans et adversaires de Darwin. En fait. Bon. C'est celui qu'on a appelé le bulldog de Darwin, Thomas Henry Huxley. Bien. Passionnant, hein. Mais je ne peux pas vous en dire plus, sinon on sera encore là demain. Et donc, il raconte à Darwin une anecdote suivante. Il avait été élu à la Metaphysical Society, la société de métaphysique il y avait beaucoup de sociétés savantes en Angleterre, c'était l'une d'entre elles, et il raconte à Darwin que dans cette société, il ne pouvait pas faire un pas sans se heurter dans quelqu'un qui décorait ses positions philosophiques d'un isme particulièrement significatif de l'appartenance doctrinale, hein, l'utilitarisme, etc., tous les mots qui terminaient par isme, et Fouet était très très ennuyé parce qu'il n'avait pas d'isme à mettre derrière quelque chose qui aurait été sa théorie. Alors il a eu une idée assez merveilleuse. Il raconte qu'il souffrait beaucoup de ce manque d'isme et de ce manque de désinence. Je me sentais, disait-il, comme le renard qui s'est fait prendre la queue dans un piège, couper la queue, et qui n'ose plus sortir, pour plus se montrer devant ses congénères. Alors il a inventé, il a fabriqué avec une racine grecque un mot qui veut dire ben, « j'en sais rien, mais j'en fais une doctrine ». C'est le agnosticisme, et ça a marché. Ça a marché, et il conclut « j'avais une queue comme les autres renards ». Pensez-vous un instant que Darwin ait pu prendre ça au sérieux? Non, l'agnosticisme n'est pas une conviction, c'est le fait de refuser, de revendiquer une position de jugement par rapport à l'existence ou à la non-existence de Dieu. Hein? Et le faisant, refusant de prendre cette position, on se met à l'abri d'être mis en demeure de prouver son existence ou sa non-existence. Hein? C'est, la recette est simple. Darwin s'est appliqué à lui-même cette recette jusqu'à la dernière minute de sa vie. Il a écrit, sauf dans des moments d'agacement, mais il a dit et écrit partout qu'il était agnostique. Ça a dû faire beaucoup plaisir à Huxley, mais entre eux, les gens s'amusaient beaucoup. Imaginez qu'il reçoit la visite. Alors là, je saute à la fin de sa vie. Il reçoit la visite de Havelling, le gendre de Marx, et de Ludwig Büchner, philosophe matérialiste allemand, que Marx n'avait pas en grande estime, mais enfin, peu importe, ça c'était matérialiste. Et Havelling venait demander, je raconte ça à la fin du livre, je traduis aussi le texte d'Havelling là-dessus. Cette rencontre est extraordinaire. Ils ont essayé de le persuader de donner en quelque sorte sa bénédiction officielle à une revue en faveur de l'athéisme que voulait créer Havelling. Je résume. Hein, bon. Évidemment, Darwin n'y a jamais consenti et il leur a dit pourquoi ne dites-vous pas simplement dites agnosticisme, pourquoi athéisme ça... Alors évidemment c'était quand même un petit peu un dialogue de sourds, mais Havelling, comme à son habitude, a tourné cette rencontre en quelque chose qui était très avantageux pour lui. Ils avaient, c'est vrai, la bienveillance de Darwin, mais jamais Darwin n'a consenti une minute à se déclarer athée, alors qu'il l'est, hein. Si on lit l'autobiographie qui n'est pas destinée à la publication, lorsqu'il dit qu'il était peu à peu devenu totalement incrédule, et il ne dit pas incroyant, il va plus loin encore, parce que le thème de l'incrédulité chez lui implique constamment que la religion est une tromperie, c'est-à-dire très souvent une tromperie politique et intentionnelle. C'est ce qui différencie les spécialistes amateurs et les spécialistes professionnels, si vous voulez. J'ai des milliers de collègues aux États-Unis qui ont vu que Darwin disait qu'il était agnostique, et ils disent donc Darwin est agnostique, bien sûr. C'est bien d'ailleurs de croire Darwin sur parole, parce que la plupart du temps c'est la bonne recette. S'il a raison, ils ont. Mais là c'est une des exceptions. Hein. Bon, non, l'agnosticisme n'était pas quelque chose qui intellectuellement pouvait plaire à Darwin, mais en même temps, il est sincère dans sa correspondance lorsqu'il dit qu'il y comprend de moins en moins de choses, que ce dont il est sûr, c'est que la science doit continuer à être la science. Elle n'a pas à se préoccuper de ces questions, ce qui est une autre question. Il faudra peut-être un jour que nous en parlions aussi. Donc, l'origine des espèces crée des remous dans le milieu religieux, dans le milieu universitaire, dans la société, etc. Mais l'idée s'installe et Darwin a des défenseurs même chez des prêtres qui sont un peu en rupture avec le psychicisme du dogme bon et de l'autorité ecclésiastique. Il veut obtenir cette adhésion, et voilà pourquoi il se diagnostique, et non pas athée, il veut obtenir l'adhésion à sa théorie de gens comme Azagwe, par exemple, aux États-Unis, qui acceptent le principe de la transformation des espèces, mais veut que ce soit sous le guidage transcendant d'un être infiniment puissant et sage. Et donc, nous retrouvons cette structure des principes d'intelligent design, qui n'est pas une invention récente, mais qui date qui est aussi vieux que la théologie naturelle, c'est un des principes fondamentaux de la théologie naturelle, le dessin intelligent. Donc, les abrutis qui revendiquent ces choses aujourd'hui n'ont rien inventé, et nous le font croire. Il y a même des journalistes qui ont une nouvelle théorie, l'intelligent design, etc. Bon, ça, les journalistes peuvent prendre leur problème, c'est l'ignorance. C'est pas toujours la malveillance, mais bon, c'est surtout l'ignorance. Alors donc, il est tout à fait important de bien resituer tout ça dans l'histoire. Si je vois mon ami Yost qui apprend ce que je dis, le sait lui tout ça. Il faut connaître l'histoire des théories, il faut connaître, parce que ça nous permet de voir quand elles résurgent, hein, quand une théorie idéologique résurge, seuls ceux qui l'ont connue sous sa forme antérieure peuvent savoir qu'elle résurge, et faire la théorie de cette répétition. Pourquoi ça revient? Et quand ça revient? Et à quoi ça sert quand ça revient? Qu'est-ce qu'on fait avec? Et comment, éventuellement, doit-on le combattre? Alors donc, Darwin, dans tout ça, il n'a pas fini de parler, Darwin. Mais d'autres vont parler à sa place. Il a résolu de ne pas parler de l'homme, mais il va y avoir, bien sûr, sous la pression de l'opportunité merveilleuse de faire par sa théorie de la survivance du plus apte avec extinction, l'élimination corrélative des moins aptes, eh bien, il y aura tout de suite des gens pour prendre le relais. Par exemple, Herbert Spencer qui va créer ce qu'on appellera malheureusement en 1880 le darwinisme social, application de la sélection naturelle à la société, c'est la théorie du laisser-faire, on ne vient au secours de personne, on ne vient pas en aide aux pauvres ou aux déshérités, on laisse faire les mécanismes de la société et de l'économie, et les plus mauvais seront éliminés d'eux-mêmes. Bien, ça c'est le darwinisme social, opposition de Spencer notamment, que Darwin n'aimait pas du tout, à toute forme d'intervention en faveur des plus pauvres. De l'autre côté, nous avons, dans les mêmes années, constitution de l'eugénisme de Galton, hein, qui dit au contraire, la sélection naturelle ne faisant plus depuis longtemps son office améliorateur, hein, son ne jouant plus son rôle d'amélioration dans la société, eh bien ce n'est plus à elle qu'il faut faire appel, mais à une sélection artificielle planifiée. Qui aura cherché des appuis du côté de l'autorité politique, etc. Nous avons en apparence deux théories qui s'opposent, mais dans l'éthiologie en quelque sorte de phénomène, mais qui se rejoignent sur l'affirmation commune de la nécessité de l'élimination de ceux qui ne correspondent pas effectivement à cette sorte de norme idéale qui réglerait l'appartenance à une société. Alors ces deux positions, n'est-ce pas, hein, l'une spencerienne et darwiniste sociale avec de gros guillemets, et l'autre darwiniste par référence à la sélection artificielle, ne reconnaissant pas des critiques par rapport à l'action de la civilisation protectrice des faibles et des indignes, hein, bon, eh bien, toutes ces deux positions, elles résument en quelque sorte l'échiquier politique anglais, elles en donnent une image, en tout cas, c'est l'opposition entre les libéraux dont Spencer était une figure hypertrophiée, en quelque sorte, c'est juste l'outil, extrémiste, intégriste, et de l'autre côté, des interventionnistes type ces républicains conservateurs. Bon, voilà, ils sont tous libéraux, on a bien compris qu'ils sont tous pour le développement de la société sur ces nouvelles bases, hein, mais certains veulent maintenir une régulation ou une intervention que les autres refusent. On connaît les dérives de ces deux attitudes, on sait ce qu'est le darwinisme social, ben, ça fait beaucoup de morts, mais elles n'ont pas été décrétées, hein. Et puis de l'autre côté, ça fait aussi beaucoup de morts, mais elles ont été décrétées. Alors, Darwin, ben, il va écrire enfin et publier en 1871, et je saute tant d'épisodes que j'en ai honte moi-même. Ce grand livre, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, qui est le traité le plus important qu'il ait écrit après l'origine des espèces. Dans ce livre, en dehors d'expliquer que l'homme se rattache à la série animale, c'était, tout le monde le savait, mais c'était dur de l'assumer comme ça quand on a été le père de la théorie de la descendance, il fallait bien aller jusque-là, on l'a pressé Darwin. Et Darwin ne voulait pas se presser, il a eu tort, parce que c'est Spencer et Galton qui a parlé, qui ont parlé à sa place et en son nom parfois, simplement en faisant référence à sa théorie. Donc ça c'est très grave comme phénomène. Eh bien, dans la filiation de l'homme, il va expliquer des choses qui vont à l'opposé de Spencer et de Galton, à l'opposé du darwinisme social qui ne sera baptisé ainsi qu'en 1880, comme je le disais tout à l'heure, et à l'opposé de l'eugénisme qui refuse absolument tout bien qu'étant cousin de Galton et de connaissance pour lui. Il va expliquer que dans l'évolution de l'humanité, la sélection naturelle ne s'est pas contentée de sélectionner des variations organiques avantageuses, mais qu'elle a sélectionné aussi des instincts. Et que dans l'humanité, les instincts sociaux ont été tout particulièrement bien traités par la sélection, retenus par elle et développés. Les sélections, les instincts sociaux sont ce qui permet d'instaurer entre les membres d'une population, je ne parle pas seulement des membres d'une population humaine, bien que cela culmine bien sûr avec l'humanité, des relations différentes, des relations conflictuelles, agonistiques dont je parlais tout à l'heure. Les individus ne font plus que lutter entre eux pour survivre, ils ne font plus que cela, hein, ils ne se contentent plus de ce type de relations, mais ils développent entre eux, à l'opposé de ces relations, des rapports d'assistance, de secours aux faibles, des rapports de coopération, des rapports de soins, des rapports de réhabilitation, et qui vont en fait leur permettre de développer infiniment leur capacité rationnelle et entrer de ce fait, et les faire entrer de ce fait dans un jeu de relance mutuelle élargie, telle que la dynamique de la connaissance et de l'expérience, par exemple, chez Condillac au XVIIIe siècle. Là, il y a chez Darwin quelque chose qui, du point de vue de la structure de la réflexion, ressemble fort, parce que ça en est issu par Erasmus interposé, à cette dynamique théorique du progrès des Lumières, hein, si vous voyez ce que je veux dire. La théorie du progrès arrive au moment où il veut arriver, c'est-à-dire dans l'humanité. C'est quand Darwin parle de l'homme. Avant, il n'en veut pas. Il n'y a pas de progrès. L'évolution et le progrès sont des choses différentes. Et il montre qu'il y a des régressions organiques qui sont des adaptations positives. Hein. Les fameux coléoptères de Madère qui sont devenus aptères, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs ailes, ou quasiment, eh bien, cette perte, cette régression organique leur a permis de résister au vent très puissant qui soufflait sur le littoral. Donc une régression peut être une adaptation positive pour Darwin. Bon, il l'a dit et répété. Là, nous entrons dans le domaine de la civilisation. Les choses sont évidemment différentes. Nous ne sommes pas, comme les autres animaux, obligés d'attendre que notre poil pousse lorsque le climat se rafraîchit. Il suffit simplement de mettre un vêtement supplémentaire puisque nous savons les fabriquer. Alors, nous sommes effectivement différents. Grâce au développement des instincts sociaux et grâce au développement corrélé des facultés mentales et des facultés rationnelles, en particulier. Cette sélection des instincts sociaux a développé le sentiment de sympathie. C'est une des conséquences, dit-il, du développement des instincts sociaux. Le sentiment de sympathie dont nous nous avions vu en commençant qu'il l'appréciait beaucoup chez son père, qui était effectivement quelqu'un de très humaniste et de très protecteur, hein, envers les pauvres, envers les faibles. Eh bien, Darwin va reproduire très bien, sans difficulté, ce comportement-là. Quand il arrivera à Down, sa première préoccupation sera de créer une société de bienfaisance et d'entraide au profit des pauvres de la paroisse, etc. Il leur apprendra comment épargner, il s'occupe des pauvres. Et en fait, ce qu'explique Darwin, c'est que par le biais des instincts sociaux, et là, c'est vraiment la phrase la plus importante, c'est celle qui est devenue maintenant un peu routinière chez moi, par la voie des instincts sociaux, la sélection naturelle sélectionne la civilisation qui s'oppose à la sélection naturelle. Ce mécanisme est décrit plusieurs fois en sous-lettre dans la filiation de l'homme. Il a fallu attendre un pauvre Patrick Thor qui est arrivé en 1880 avec cette découverte pour qu'enfin le discours sur Darwin commence un peu à changer. Et puis on s'est mis à le connaître un petit peu mieux. Maintenant on connaît sa vie mieux que celle de n'importe quel scientifique. Donc aujourd'hui on sait que j'avais raison, sans jeu de mots bien entendu, parce que ça a été très souvent utilisé. La lecture de Darwin aujourd'hui s'est totalement transformée, mais elle n'est pas assumée encore dans toutes ses conséquences, bien loin de là. Moi, les spécialistes, évidemment, en tant que spécialistes, étaient bien obligés d'être d'accord avec moi, parce que j'étais obligé à lire les livres dont ils étaient spécialistes. Voilà. Alors donc, ce fameux effet réversible de l'évolution, il a produit pas mal de commentaires, pas mal de constructions théoriques, il a produit de la philosophie notamment. Il y a des gens qui travaillent maintenant sur ce schéma-là. L'intérêt de ce schéma, c'est qu'il rend possible le matérialisme. S'il y avait véritablement une rupture dans notre histoire, entre l'animal que nous avons été et l'homme que nous sommes devenus sans pourtant cesser d'être un animal, on ne comprendrait plus rien. Il faut donner toute sa puissance au schéma phylogénétique de Darwin. Hein. Or, comment se le représenter sur le plan du fameux vieux rapport nature-culture que l'on trouve partout en philosophie et singulièrement à l'entrée des manuels. Hein. On commence. Les petits élèves en philosophie, je ne sais plus si c'est comme ça aujourd'hui, mais ils avaient, les élèves de terminale, ils avaient le beau manuel d'un autre grand philosophe, c'est Huysmans et Vergès, hein, et tous connus Huysmans et Vergès. Avant, il y avait Cuvilliés. Bon, Cuvilliés, ça avait encore un peu d'allure. Mais... alors, M. Huysmans et Vergès, parce que finalement, Vergès travaillait, et on voyait Huysmans, surtout, donc, c'est Huysmans et Vergès. Vous avez certainement, si je me souviens bien, le premier chapitre, nature et culture. La question, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est différent, est-ce qu'il faut les distinguer, est-ce qu'il faut les opposer, etc. Alors, bien sûr, c'est légitime, cette question, parce que ça n'a jamais fait l'objet d'un vrai travail théorique. Il y a eu des partisans de la culture comme la nature, hein. Ça, c'est toutes les sociobiologies de l'histoire. Hein. La culture n'est qu'une dépendance de la nature parce que nous ne sommes que la projection de nos gènes, en quelque sorte, dans un univers qu'on n'a pas cessé d'être naturel, etc. Puis, c'est pareil. Hein. La culture, on s'en fout. Le pouvoir d'instauration humain et rationnel, on s'en fout. On est en gros des réductionnistes un peu crétins, mais efficaces. C'est la sociobiologie américaine. Comme ça que ça marche, quand ça veut s'étendre. Hein. Maintenant, ils se sentent beaucoup, ils se cantonnent tranquillement. Maintenant qu'ils ont bien imprégné le monde avec leur histoire, eh bien, ils se cantonnent. Maintenant, ils restent dans les limites de la zoologie. En fait. Mais c'est le travail est déjà fait. Hein. De toute façon, ils n'ont plus besoin de convaincre les États-Unis que de la bestialité humaine, puisqu'ils sont quand même les principaux représentants. Alors, donc, c'est à l'extérieur qu'il faut encore convaincre. La France, malheureusement, n'a pas résisté beaucoup à cette affaire. Hein, quand nous avons publié Misère de la sociobiologie avec des textes importants, tant à la capacité de réfutation, eh bien, on était quand même les seuls autour de ce qui allait devenir l'Institut Darwin après, bon, qui allait produire le dictionnaire du darwinisme, etc. On était un groupe de gens du muséum, et d'ailleurs, hein, moi j'étais au Collège international de philosophie à l'époque, ça se passait dans mon séminaire, et on a pris ces initiatives, et qui ont fait date, parce qu'il y a des milliers de gens qui ont travaillé sur ce texte. Le groupe français d'éducation nouvelle, les gens, tous les gens qui essayaient de réfléchir un peu autrement que de la façon dont on leur avait appris. Voilà. Alors donc nous avons de lourdes obligations théoriques avec un concept comme celui-là aujourd'hui. S'il rend possible le matérialisme, c'est donc, pour sortir de ces infinies digressions que je n'arrête pas de vous faire, s'il rend possible le matérialisme, c'est qu'il assume la nécessité d'aucun discours sur l'origine, donc de tenir compte de la phylogénie, donc de tenir compte d'un continuum généalogique, hein. Et nous sommes, nous vivants, les issus d'une histoire du vivant qui est une histoire animale, hein. Il n'y a pas d'interruption, hein, dans notre généalogie. Donc, les organismes que nous sommes portent les conséquences actuelles de toute cette phylogénie. Mais, grâce à ce fameux effet réversif, à cette fameuse sélection des instincts sociaux, nous avons sélectionné des conduites qui s'opposent aux conséquences antérieures et archaïques de la sélection naturelle. C'est-à-dire que nous sommes devenus véritablement altruistes, nous sommes devenus capables d'aider ceux qui souffrent, nous sommes devenus capables d'assumer une moralité et d'en rendre compte, et nous avons réussi à domestiquer notre environnement au lieu d'être obligés sans cesse de nous y adapter. Je suis très théorique, et on m'objectera immanquablement dans un instant qu'en fait, on ne l'a pas domestiqué, mais on l'a détruit, mettant en péril notre propre survie, etc. Autre question. Mais enfin, l'homme est le seul être vivant qui est capable de créer ce coup réversible dans son propre environnement également. Aucune autre espèce n'en est capable. C'est quand même appréciable et dans une certaine mesure respectable d'être capable de faire ça. Non, l'homme est également le seul être vivant capable de travailler lui-même consciemment à sa propre destruction. Hein? Le problème est qu'il là se complique encore un peu. Alors, ça nous permet donc, ce concept, de penser le continuisme nécessaire au matérialisme, parce que méfiez-vous des ruptures quand on méfiez-vous des ruptures. De penser cette continuité et de penser quelque chose qui n'est pas une rupture, mais un formidable effet de rupture, qui est le renversement dont parle Darwin, entre la civilisation et la barbarie, entre la civilisation et l'état sauvage de l'homme. Il n'importe pas la différence essentielle entre l'homme civilisé et l'animal, mais entre l'homme civilisé et le barbare. Donc, ce qui fait Darwin relève de condamnation de la barbarie, c'est aussi, tout ce qu'il a appris en étudiant, ce qui reste en l'homme de comportements animaux. Hein. Et ce qu'il va aussi reprocher à la religion, pour faire un bond de nouveau de ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est le caractère sanguinaire et la cruauté. Dans l'autobiographie de 1876, il a des passages d'une violence tout à fait étonnante, mais pas étonnante si on sait que le livre ne doit pas être publié, encore une fois, contre l'Ancien Testament, où l'image d'un dieu tyrannique, vindicatif et cruel est rapportée aux religions considérées comme les plus primitives de l'humanité. Hein? Donc là, évidemment, non seulement il dit que lui ne croit plus en Dieu, donc il est athée au sens propre du terme, mais il dit que le christianisme est mauvais. Il le dit dans un autre passage de l'autobiographie, où il dit qu'il a été porté à penser qu'il serait bien regrettable que le christianisme fût vrai, hein, s'il devait justifier toutes les horreurs qui sont dans l'Ancien Testament, ou toutes les imbécilités en croyant aux miracles, etc., qui figurent dans le Nouveau Testament. On pourrait penser que Darwin va sauver le Nouveau Testament, parce qu'il est proche de cette morale chrétienne qu'il a apprise. Eh bien, ce qui va les rendre foudrage dans le Nouveau Testament, Il fallait y penser, c'est évidemment les miracles. Les miracles, c'est le contraire de la science. Hein. C'est un, la science explore des processus et les miracles court-circuitent les processus. C'est une pensée qui ne peut pas, c'est une idée qui ne peut pas rentrer dans la science. Voilà pourquoi Darwin est matérialiste, voyez-vous. Et voilà pourquoi aussi je vais terminer mon exposé en vous montrant encore une fois cette merveilleuse petite bande de Mobius. Alors, ça, c'est une bande de papier à deux faces. Alors, ça, c'est nature, hein, et ça, c'est culture. Bon, civilisation, si vous préférez. Alors, je referme cette bande, et moi, j'ai l'impression de que c'est une bande magnétophone. Je vais imprimer à l'une de ses extrémités un mouvement de retournement à 180 degrés, et je vais coller ces deux extrémités. Maintenant, je vais vous montrer que si je pars de mon pouce ici, vous voyez tous mon pouce, bien sûr, hein, et avec ce doigt, sans décoller le doigt de la place que je suis en train de suivre, eh bien, je vais retrouver très exactement l'endroit d'où j'étais parti. Cela veut dire que cet objet que j'ai entre mes mains n'a plus qu'une seule place, alors. Tous les topologistes et mathématiciens éminents qui sont dans cette salle auront déjà compris et pourront expliquer aux autres pourquoi cette figure, ce volume, cet objet n'a plus qu'un seul bord. Ils pourront vous expliquer toutes les manipulations merveilleuses qu'on peut faire en la coupant avec un ciseau sans trop dévier de la ligne du centre ou la coupant encore avec un ciseau sur une ligne qui la partage au tiers de sa largeur. C'est absolument extraordinaire, cela. Il faut quand même de la colle ici, pour tout à dire. Eh bien, voilà, nous sommes toujours dans la nature. Je n'ai pas, mon doigt n'a pas quitté la face, mais nous sommes tout de même passés de l'autre côté. Je vous remercie.
Cette conférence sera diffusée sur notre site Basta Internet. Bon, on peut pas trop. Nicolas, est-ce qu'on peut passer le micro? Ça va pas faire des lacunes, je pense. Parce que sinon, je passe juste le dictaphone pour les questions comme ça. Elles apparaissent sur son site, mais elles diffusent assez fort pour la salle. Okay. Alors, faire. À quoi? Ah, l'autre micro. Ok. Bon, qui c'est qui a des questions? On peut commencer les questions. Vous avez parlé des miracles. Déjà, vous demandez votre position par rapport aux créationnistes, car c'est des gens qui sont éduqués dans le pouvoir politique, qui sont instruits, qui sont de notre temps, et ils parlent des miracles, encore pire que les miracles, c'est incompréhensible. Alors, je ne sais pas si vous avez un point de vue là-dessus.
Si vous voulez, on pourrait faire des réponses très longues à cette question. Le créationnisme, le mot créationniste est employé par Darwin très tôt, très très tôt. Le créationniste, c'est celui qui croit à la création séparée, indépendante des espèces par un Dieu créateur. En fait, ça devrait s'appliquer à l'ensemble de la création, c'est-à-dire de la création de l'univers, du monde, pas seulement. Mais il se trouve que l'habitude s'est instaurée de réserver ce mot de créationnisme, de créationnisme, à la désignation de la doctrine de ceux qui pensent, suivant l'ancien modèle biblique, que les animaux et les plantes, les êtres vivants en général, ont été créés séparément. Et par une volonté, par un acte distinct de la volonté transcendante. Alors, vous répondre maintenant m'obligerait à des simplifications vraiment excessives, mais je vais quand même, je ne recule pas devant ce type de simplifications lorsqu'elles sont justifiées. Je dirais que il y a deux jambes à l'Amérique. Il y a le déploiement téméraire de la concurrence à tout prix qui s'appuie sur la technologie, Et donc, on annonce sur la connaissance scientifique tout de même, mais bon, très applicative, très utilitaire, je dirais. Et puis, il y a de l'autre côté les pasteurs. Réfléchissons à la fondation des États-Unis. Darwin a évoqué cela. C'était des prédictions. Et c'est pourquoi la fameuse formule définissant les États-Unis, des reprises de justice guidées par des pasteurs, c'est formidable. Au niveau de la fondation, c'est exact. C'est exact. On envoyait tous les gens qui avaient été condamnés, etc., on les exilait pour devenir d'utiles pionniers, dit Darwin. Donc ma réponse est tout à fait darwinienne. Ça n'a rien d'étonnant de la part d'une nation fondée par des reprises de justice guidées par des pasteurs et qui auront toujours besoin de ces deux jambes-là pour avancer, même si elles paraissent l'une, si l'une paraît contre l'autre. Il y a, aux États-Unis également, une lutte entre les scientifiques qui veulent assumer la rationalité scientifique et faire qu'on ne la confronte pas avec ce qui n'a aucun rapport avec elle, c'est-à-dire la déclaration d'autorité suivant laquelle le monde ou les espèces ont été créées par un acte de la volonté du créateur, etc. Bon, il y a des gens qui essaient au moins ce que l'autre appelle la dissociation, la distinction des magistères. Bon, on entend ce qu'on veut, j'aurais également beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on n'en a pas le temps. Ma position est une position de combat, beaucoup plus qu'une position concordiste. Hein. Je ne fais pas partie de ceux qui disent, bah, écoutez, vous avez, c'est très bien, vous croyez, mais ça ne vous empêche pas de faire de la science. J'ai eu beaucoup de collaborateurs qui étaient dans cette situation et qui le faisaient honnêtement, ils pratiquaient la dissociation. Lorsqu'ils étaient au laboratoire, ils se déclaraient parfaitement matérialistes. Seulement, le problème, c'est qu'il y a quand même une seule conscience pour gérer tout ça. Quand ils sortent du laboratoire, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la question qu'on peut leur adresser. On peut appeler ça de la schizophrénie. Une schizophrénie maîtrisée, les gens qui compatissent.
Je voudrais vous poser une question, donc j'ai trouvé la réponse dans le dictionnaire du darwinisme. Le rapport de la pensée de Spinoza chez Darwin. Est-ce qu'il y a eu une influence? Est-ce qu'il le connaissait? Est-ce qu'on en discutait?
C'est qui?
Merci. D'abord, je voudrais remercier notre conférencier. Je constate qu'aujourd'hui encore, et pas que c'est pas seulement un cas de Darwin, il y a des gens qui ont de la répugnance à se déclarer athées et qui préfèrent dire libre penseur ou agnostique. Et en relation avec ça, aux États-Unis, il y a donc, je pense que c'est juste des États où l'enseignement du darwinisme ou de l'évolutionnisme est interdit. Et je voudrais savoir s'il y a des sanctions qui sont encore appliquées qui sont encore infligées en application de ces lois d'interdiction du darwinisme.
D'ailleurs, du Texas, donc depuis pas mal d'années, je n'ai pas suivi ces dossiers région par région aux États-Unis et État par État, parce qu'on ne peut pas faire une réponse globale, il faut savoir ce qui se passe dans les États. Et je pense que c'est en train de se calmer dans l'ensemble. Je calme, mais pardon, je parlais du Kansas, hein, tout à l'heure. J'ai peut-être vu du Texas, alors c'était au Kansas, bien sûr, où là, il y avait tellement de nombreuses situations du Kansas, avec des effets, c'est vraiment très bien la chose. Alors, ce qui est insupportable, j'ai vu, c'est que, et là, je vais pas en dire des formations, si vous avez donné, on présente comme une affaire de démocratie le fait de dire que l'on peut librement choisir entre la théorie darwinienne, la théorie scientifique de l'évolution des organismes, et l'autre part, le mythe de la création, une notion religieuse. Mais Alors, on va le droit de voter tout le monde au nom de la démocratie, de la justice, de la loi de la justice des corps. Hein? Et donc, c'est ça qu'il faut être un peu comme ça. Pour ou contre la justice des corps.
Bah moi, j'aurais juste une question en attendant ce que d'autres décident. Je crois que vous êtes en train de publier un livre sur darwinisme et marxisme. Entre le darwinisme, qui est un matérialisme, et le marxisme, qui se dit aussi matérialiste, mais sans doute d'une façon assez différente, est-ce que vous voyez des liens? Est-ce que ça peut se compléter ou est-ce que c'est en divergence?
C'est très exactement ce que vous saurez en disant.
Vous n'avez pas un petit avant-propos
Non, mais c'est bon, je vais expliquer ce que je disais, j'ai fait très familier. En fait, ça fait très longtemps qu'on est un des développements que j'essaie de dire constamment. Oralement, c'est par le même artiste, je suis à faire un nouvel observateur d'une manière très redéjeuner aussi.
Alors pour moi, ça peut être tout ce que vous voulez, mais je ne sais pas si la salle est aussi d'accord.
Bon, les rapports là, sont à peu près les suivants. Nous sommes en 1860 et la première édition de l'origine des espèces vient de sortir le 24 novembre 1859. Et puis, quand on sort, il fait la deuxième édition, donc déjà, de l'origine des espèces. Marx est à Londres, il a Engels prend sa plume et écrit une lettre en citation à Marx, il faut absolument que vous lisez ce livre. Marx va prendre son temps, mais il va dire le livre dans l'édition anglaise. Hein. Il est en Angleterre, il est en anglais, il n'a pas besoin d'attendre que sa propre traduction allemande, qui d'ailleurs sera de 1860 aussi, il paraîtra chez toi chez Rome. Il dit dans le texte original vraiment la première. Et il répond à Hegel par une lettre très positive, pas enthousiaste, mais presque, dans laquelle il dit que là se trouve le socle de notre compréhension. Il va répéter d'ailleurs ce jugement de loi dans une autre correspondance. Et ce qui intéresse Marx, c'est le matérialisme de Darwin. C'est plus simple, il voit se profiler la possibilité d'une construction nécessaire, requise par la cohérence du matérialisme, c'est d'asseoir son matérialisme historique, celui qu'il partage à son coup. La fabrication, la conception, la réalisation avec Hegel, d'avoir ce matérialisme historique sur un matérialisme mathématique. Et il pense un peu ça comme un jeu de construction, comme un jeu de superposition. Darwin s'est occupé du vivant, c'est merveilleux, nous nous occupons de l'historique, ça c'est du social. En même temps, il y a quelque chose qui chez Darwin fait réagir Marx, c'est l'analogie tout à fait intéressante qui peut tirer du thème de la lutte pour l'existence, et il dit dans un autre courrier, la lutte pour l'existence darwinienne me convient comme base de notre lutte de la lutte de classe. Bon. Mais deux ans après, 1862, le temps change considérablement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé bien des choses. D'abord, c'est le début du darwinisme social allemand, très proche, très rapide. Pas seulement allemand, mais anglais également. Bon, les théories de système de Spencer, qu'on se constitue à partir de 1860, à travers un vaste processus qui est distribué partout, notamment aux États-Unis, Et très vite, on aura les premiers principes en 1862, etc. Donc, la philosophie de l'art s'expande en quelque sorte. Darwin, par ailleurs, ou Marx, par ailleurs, excusez-moi, est entré en conflit très aigu avec un grand darwinien qui connaît bien la suite, c'est Karl Vogt. Et ce Karl Vogt, il va écrire, enfin je veux dire, Vogt va par exemple préfacer l'édition française traduite par Barbier de La filiation de l'homme. C'est dire à quel point on le prenait au sérieux sur le plan du matérialisme et sur le plan de la compétence darwinologique. Mais c'était au 19e siècle. Fin 19. Et le même Vogt se rend procès avec Marx pour des raisons extrêmement compliquées qui tiennent au milieu de l'immigration allemande, etc. Et Marx arrivera à prouver que Vogt est un agent de Napoléon III, qu'il reçoit de l'argent de Napoléon III. Bon, un conflit très très violent donc entre Marx et certains darwinistes. Le drame de cette histoire, c'est que Marx va pratiquer un premier amalgame entre, et là il a une réaction militante, entre les darwinistes en question, qui sont des épigones discutables de Darwin, et Darwin lui-même, et l'orientation profonde de sa pensée. Donc cette première erreur risque de peser très lourd, mais en même temps, n'ayant pas pu lire La filiation de l'homme, qui paraîtra 9 ans plus tard, il n'a pas les éléments pour savoir que Darwin n'est pas comme certains représentants du mouvement qu'il a inspiré. Alors tout cela évidemment complique infiniment les choses, parce que les marxistes vont retenir de tout cela une double leçon. D'abord Engels lui-même, qui ne fera que répéter Marx, 1862, il va le répéter dans l'Anti-Düring, il va le répéter dans la Dialectique de la Nature, en parlant dans l'Anti-Düring de la vue malthusienne de Darwin, etc. Ça revient tout le temps. C'est eux qui commettent la vue, mais bon, tant pis. Alors, les marxistes vont payer cela très cher parce qu'ils vont porter ce double discours sur Darwin, cette schisme du discours sur Darwin, ils vont la porter jusqu'aux années les plus récentes. D'un côté, ils vont approuver le matérialisme de Darwin, de l'autre côté, ils vont s'imaginer qu'il est lui-même pleinement responsable du développement du courant du darwinisme social. Et ça, c'est très grave parce que c'est l'erreur historique par excellence. Darwin ne pouvait pas apporter de caution à un tel mouvement pour des raisons qui sont inscrites dans un de ses plus gros traités que l'on n'a jamais lu parce que l'on pensait qu'il était la projection pure et simple sur la société des thèses de l'origine des espèces, le prolongement de l'origine des espèces dans le domaine de la société. Voilà l'erreur qui a été commise, alors que ce retournement fondamental qui est thématisé d'une manière constante dans entre les chapitres 3, 4, 5, 21 du livre, 21 sur la conclusion, eh bien, ces chapitres anthropologiques de la filiation de l'homme sont absolument capitaux si on veut comprendre effectivement ce qui se passe chez Darwin grâce à la sélection des instincts sociaux et pourquoi Darwin rend compte du renversement en elle-même de la sélection naturelle par un mécanisme de divergence interne, par un mécanisme de dépérissement des anciennes formes, tout concept darwinien que sa théorie a permis de produire. La sélection naturelle, si on l'envisage non pas comme le mécanisme, non pas seulement comme le mécanisme de l'évolution, mais comme un mécanisme en évolution, se soumet elle-même à sa propre loi, sa forme antérieure, dépassée, inadaptée, entre en dépérissement, tandis que la branche nouvelle, qui favorise le développement de la sympathie, connaît un développement nouveau et inaugure effectivement, non pas dans cette espèce nouvelle, mais un nouveau moment peut-être de l'humanité.
Avez-vous une explication sur l'existence d'un courant fondamentalement anti-darwinien dans l'Union soviétique stalinienne dans les années 30, avec des gens que vous citez dans le dictionnaire du darwinisme, tels que Lesberg et sa nomogénèse, ou bien Alexandre Lyubichev, et qui se continuent jusqu'à présent dans l'école de sémiotique de Tartu-Moscou avec la biosémiotique?
Alors là, je n'ai pas suivi le développement de tout cela depuis le dictionnaire du darwinisme précisément. Vous me posez la question d'un anti-darwinisme qui serait persistant aujourd'hui, venant donc non pas du Union soviétique mais de Russie aujourd'hui, c'est bon.
Donc il a commencé avec Frontier
Ça, je connais bien cette histoire, mais aujourd'hui, non, je ne peux pas vous répondre, vraiment. Vraiment.
Et dans les années 1930, par exemple
1930, on était dans la période déjà de... Vous dites 1930, pourquoi exactement?
Parce qu'il y avait un mouvement à la fois lamarckien, lamarckiste, profondément anti-darwinien,
oui.
Au sens où rien ne peut se faire au hasard. Et c'était l'idée du hasard, donc la matérialisme anti-hasard, qui a pourtant, voilà, vous pouvez simplement me demander si vous avez l'explication.
Mais vous ne parlez pas de la période de Michurino du
Sentis. Oui, c'est très différent, ça n'a rien à voir. C'était le retour du hasard.
Oui.
Et alors, l'idée que tout est fait sur des lois.
Mais Darwin n'a jamais pensé autre chose que ça. Hein? C'est-à-dire que, bon, c'est la vulgate darwinienne qui dit le Darwin, bon, et ça va jusqu'à Jacques Monod, hein, bon, Darwin c'est le hasard, mais qu'est-ce que c'est que le hasard? Avez-vous une définition, un produit du hasard? Est-ce que quand vous dites le hasard, vous qui êtes par exemple biologiste, vous dites la même chose que lorsque le mécanicien quantique en parle? Certainement pas. Mais en même temps, quand le mécanicien quantique en parle, il ne sait pas plus de choses que le biologiste, hein. Ça se passe simplement pour lui d'une façon déroutante. Est-ce que pour cela on doit parler d'un déterminisme, on doit absolument d'un déterminisme. Alors, ce que je dirais, moi, c'est que d'abord je vous renvoie à Darwin n'est pas celui qu'on croit, il y a un chapitre entier sur justement ce que Darwin vraiment pensait du hasard. Mauvaise formulation, dit-il, mauvaise façon de parler. C'est une façon, dit-il, de masquer notre ignorance des causes, je le dis dans des termes très simples, qui sont à peu près ce qu'il emploie et qui relèvent d'un mode de déterminisme qui est laplacien. Il est laplacien sur ces questions-là, Darwin. Et bon, tout ça est extrêmement intéressant parce que on s'aperçoit qu'on a vulgarisé sur des bases que Darwin refuse. Darwin est l'homme qui vous dit j'emploie le mot hasard pour de mieux parce que ce mot est une mauvaise expression. Hein? Alors voyez le développement là-dessus, parce que j'y parle de la mort d'un professeur de lettres de la Sorbonne, spécialiste du XVIIIe siècle, qui est mort piqué par des abeilles, par des seins d'abeilles, dévoré au bord d'une rivière, alors qu'il tatinait la blette par la douce avette qui était en voyage organisé. Est-ce qu'on peut dire que c'était un hasard? Alors, je vous laisse découvrir le chapitre parce que c'est quoi, comme très bien ce monsieur. C'était gentil, rien à voir avec l'anthropologie, c'était vraiment un très, très bon professeur de 18e siècle. Mais sa mort, c'est une chose horrible, c'est triste. Et en même temps, on peut poser à son sujet, quand on connaît les abeilles, des questions extrêmement pertinentes sur le rapport de l'homme. Mais alors, c'est un peu compliqué, est-ce que je vais... Non, ben non, je ne vais pas le faire maintenant, parce que là, c'est 2 heures. Mais je peux démontrer l'équivalence logique de l'expression « c'est un hasard » et « ce n'est pas un hasard ». Mais bon, non, c'est pas bien, c'est pas bien.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la réception du public anglais, puisque vous avez évoqué au fond le succès immédiat de son livre de l'origine des espèces et ses nombreuses rééditions qu'on suivit, et aussi nous expliquer pourquoi cette ce succès s'est accompagné d'une immense prudence, parce que les ennemis de cette théorie aussi se sont montrés très virulents.
La plupart des attaques, contre ce livre et contre son auteur émanaient effectivement des milieux religieux, scientifiques ou non. Mais les scientifiques qui ont réagi en premier étaient quasiment tous des gens engagés dans la profession ecclésiastique. Hein? Adam Sedgwick, par exemple, l'ancien professeur de géologie de Darwin, a perdu tout contrôle à ce moment-là. Et il a eu des mots très durs pour Darwin, qui lui a quand même conservé son amitié, mais sans continuer, bien sûr, à le rencontrer aussi fréquemment qu'avant. Il savait que désormais qu'il avait un adversaire. Et il a eu comme ça beaucoup d'adversaires dogmatiques, mais il s'est passé aussi que, dans une période très rapprochée de la sortie du livre, il y a eu des ralliements, c'est un peu ce qu'il espérait, notamment des révérends comme Baden-Powell, qui n'était pas le fondateur du scoutisme, mais un de ses parents. Ce révérend Baden-Powell a joué un rôle assez important dans l'acclimatation des thèses darwiniennes à l'intérieur de l'Église anglicane. Et comme par ailleurs Darwin était très soucieux de ne jamais faire de provocation, le message pouvait passer, à condition bien sûr que l'on remplaçât l'ancienne théorie l'intégralité du dogme telle qu'elle était défendue auparavant, par un ajustement qui permettait de faire s'accorder sous l'autorité tout de même d'une théorie de la création transcendante, cela va de soi, et surtout sous l'autorité d'une théorie de la providence, hein, la transformation des espèces avec la révérence envers l'intelligence transcendante. Donc, les gens qui vont s'appliquer à ça seront des gens comme Baden-Powell ou aux États-Unis, Asa Gray, le botaniste, qui va donc militer pour la diffusion dans le milieu scientifique américain des thèses de Darwin, tout en polémiquant d'une façon amicale à travers sa correspondance avec Darwin, pour essayer d'obtenir que Darwin reconnaisse l'idée d'un plan et d'une intelligence rectrice, ce que bien entendu jamais Darwin n'a fait reconnaître une seconde, et que il va le soit.
Je vous poserai une question, mais je ne vais pas pouvoir rester pour écouter la réponse, donc je l'écouterai en retranscription sur le site de la librairie. Mais je voulais savoir, j'ai cru comprendre que vous n'adhériez pas du tout à Kropotkin, et je me demandais ce que vous lui reprochiez exactement, notamment à ses théories sur l'entraide comme un facteur de l'évolution, et à sa défense à lui de Darwin contre le darwinisme social.
Alors, Kropotkin, de ce que j'ai à en dire, d'ailleurs j'en parlais avec Yann un peu cet après-midi, Kropotkin est quelqu'un de tout à fait intéressant, mais qui a choisi un mode d'argumentation qui n'est pas le bon. C'est-à-dire qu'il veut faire comme Pestalozzi. Il veut aller chercher dans la nature des éléments à l'appui d'une théorie qui fait exactement comme Spencer, mais qui va contre Spencer. Bien que Spencer va chercher aussi dans la nature un tas d'exemples qui montrent que la loi du combat, la loi de la lutte pour l'existence, s'applique à tous les niveaux. Donc, qu'il est naturel qu'elle s'applique également à l'ordre de société humaine. Bien. Concurrence vitale, élimination des moins actes. Bien. Alors, Kropotkin, lui, il va chercher dans la nature des éléments qui viennent à l'appui de la thèse inverse. Mais c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Il veut faire une sociobiologie pacifique contre une sociobiologie féroce.
ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est ce qu'on a exposé tout à l'heure. La réfutation, elle est dans Darwin, elle est profonde, elle est à la fois naturaliste et logique. Il y a une grande conscience, et en plus, j'oserais, pour une fois, risquer le mot, elle est dialectique. Le retournement interne de la sélection naturelle, la sélection naturelle qui sélectionne ce qui va la désélectionner, ça, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Et c'est en toute lettre dans Darwin, croyez-moi. Je n'ai eu qu'à que le faire apparaître, c'est tout, à l'intérieur d'un cadre logique un peu strict, mais qui m'empêche précisément de dire n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent peut-être que l'effet réversif de l'évolution est une invention de philosophe. Eh bien non, je ne suis pas plus philosophe que ne voulait l'être Darwin. En l'occurrence, même si je connais plus de philosophie que lui, pour des raisons d'études particulières, je ne veux pas être philosophe dans mon travail épistémologique. L'épistémologie n'est pas la philosophie, ne doit pas appartenir à la philosophie.
On va pas forcément continuer, c'est encore des heures, c'est déjà tard, à moins qu'il y ait une vraie question vraiment urgente et décisive. Amen.
D'où vient quand même votre passion?
D'où vient votre passion?
Vous savez, il est tout à fait faux que je sois un inconditionnel de Darwin. Quand on me dit des choses comme ça, je me dis vraiment, est-ce qu'on peut très sérieusement m'adresser ce propos? Non, il n'y a rien d'inconditionnel dans mon travail d'analyse. Au contraire, je ne célèbre pas Darwin, j'étais parti d'a priori bien opposé à cela. J'ai dû me convertir moi-même à l'évidence. C'est une garantie. Avant 1980, je pensais comme tout le monde que Darwin portait une responsabilité dans toutes les vilaines choses. Et seulement voilà, je ne le disais pas parce que je n'affirme pas les choses avant d'avoir lu. Aujourd'hui, tout le monde, grâce au travail que j'ai fait à ce moment-là, tout le monde peut vérifier que ce qui est vrai, c'est le contraire. Que Darwin était un grand pacifiste. C'était quelqu'un qui détestait la violence, qui ne pouvait pas regarder la souffrance sans la ressentir, qui s'occupait des plus malheureux. C'est quelqu'un qui était le contraire de Spencer, et savait aussi qu'il pensait de Spencer. C'est dans l'autobiographie aussi. Je n'aimais pas beaucoup Spencer et je sentais que je ne pourrais jamais manier d'amitié avec lui. Il était, à mon avis, extrêmement égoïste. Eh bien, c'était le souvenir est antérieur, je crois, au développement par Spencer lui-même de la théorie sociobiologique de l'égoïsme fondateur, de l'égoïsme premier, de l'altruisme égalité, etc. Et tout ce qui s'en suit, d'ailleurs, tout à fait intéressant à étudier. Mais Darwin perçoit déjà dans le comportement de Spencer qu'il pourrait être un jour le théoricien de l'égoïsme. C'est pas mal, hein? C'est pas mal.
L'élaboration, la vulgarisation du discours intérieurisant que l'Occident connaît et parlait de la culture de ce qu'ils ont fait. Parce que Darwin était de quelque chose, est-ce que ça tient? Bon, bien, c'est la raison que je veux, c'est mon engagement. Et c'est bien parce que la réponse est
ici. Merci beaucoup, alors je crois qu'on peut...